Pulsan, l'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission mensuelle de la Société d'Astronomie de Nantes. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Alternante, vous écoutez Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque c'est la dernière de la saison, on se retrouvera une prochaine fois. Donc pour la dernière, on n'a rien fait de spécial, à moins que quelqu'un veut chanter. Non, apparemment non. Donc on a quand même quelques petites infos à vous donner, on va vous présentation un peu de l'émission qui va suivre, on va vous présenter les dernières nouvelles. Après le ciel du mois, après on vous présentera la prochaine conférence, une conférence exceptionnelle puisqu'elle n'était pas prévue il y a quelques mois encore. Après nous aborderons les grands yeux, alors c'est Dominique Miel qui vous expliquera ce que sont les grands yeux. Et puis Daniel Warling vous présentera après le programme du prochain cycle de conférences, en sachant qu'entre tous ces thèmes, Fabrice Dubreuil s'insérera pour nous parler des actus astro. Voilà un programme encore chargé. On a l'antenne jusqu'à 23h et puis on va attaquer tout de suite avec les petites nouvelles des événements à venir ou passés, de ce qui s'est passé au mois de mai et surtout de ce qui va arriver dans le prochain mois, on va dire. Et vu qu'on vient de commencer le mois de juin, il faut quand même dire qu'il y a la prochaine conférence le lundi 24 juin.
Oui, c'est une première, mon cher Thierry, puisque d'habitude notre cycle s'arrête au mois d'avril. Le plus loin qu'on était tout de même, c'était début juin pour une conférence sur la Lune avec Serge Chevrel il y a quelques années. Ça nous a paru intéressant, puis on a fait un essai. C'est vrai que le mois de juin, en général, enfin en principe, il fait chaud. Ça se confirme aujourd'hui. Et donc les gens n'ont pas trop envie de s'enfermer dans, enfin s'enfermer avec l'astronomie, ce n'est pas vraiment s'enfermer, mais enfin tout de même. Donc on évite un peu ce mois-là, puis on verra ce que ça donne. Alors on profite d'une occasion de la venue à Nantes de Philippe Chomaz qui travaille au GANIL. Le GANIL, qu'est-ce que c'est? C'est le grand accélérateur d'ions lourds qui se trouve à Caen. C'est une structure du CEA. Alors là-dedans, on accélère des ions. Des ions lourds, par définition, c'est-à-dire des. En fait, ce sont des atomes à qui il manque ou il y a des électrons en plus ou en moins. C'est-à-dire, ce sont des particules chargées qu'on accélère dans les grands accélérateurs, d'où le nom. Et on étudie des interactions, des chocs, et on en déduit la structure de la matière. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça pour savoir comment se comporte la matière, et surtout qu'on va créer des états de la matière qu'on ne connaît pas vraiment sur Terre à l'état naturel. Ce qui nous permet un peu de sonder notre univers et de voir un peu certains, on va reconnaître dans ces expériences faites sur Terre certains des éléments qui peuplent l'univers.
Donc ça, on va en parler tout à l'heure, dans un petit quart d'heure.
C'est vrai, c'est vrai.
On va faire un détail de la conférence. Donc là, il faut surtout noter sur vos agendas
que c'est le lundi 24 juin à 21h, salle Bretagne, une salle que beaucoup de Nantais connaissent, qui est un ancien cinéma très très bien. Donc notez cela, lundi 24 juin.
Voilà, tout de suite. Ensuite, on va changer, on va passer directement au mois de juillet, puisqu'on a les Ciels de Nantes.
Ciels de Nantes, la cinquième soirée.
Cinquième, je crois, édition des Ciels de Nantes. Donc là, ça va être le samedi 20 juillet.
Voilà, ça commencera exceptionnellement plus tôt.
Il faut bien noter sur vos agendas, vu qu'on est au mois de juillet, on va commencer à 19h. Ah, pourquoi 19h? C'est paradoxal, puisqu'en fait, le ciel se noircit plus tard qu'au mois de juillet.
En fait, on veut commencer avec le soleil.
Voilà, et on va commencer par observer le soleil à partir de 19h, vu qu'il ne sera pas encore totalement couché.
On va observer les flammes du soleil.
Avec le filtre H alpha.
Un filtre H alpha, c'est... c'est peut-être que Frédéric nous donnera quelques précisions. C'est un filtre qui laisse passer une certaine longueur d'onde. Et avec ce biais-là, on évite un certain nombre de lumières parasites et on étudie une certaine couche de la surface du soleil. Et surtout, ça nous permet de voir ce qu'on appelle les protubérances. Et c'est-à-dire des espèces de flammes. Alors, on va voir le soleil vivre en direct. Alors, ça, c'est assez joli, assez émouvant. Hein, Frédéric.
On verra ce 20 juillet. C'est peut-être qu'il n'y aura pas d'éruption, on n'en sait rien. Peut-être qu'il n'y en aura
pas. Parce qu'il y a, deux facteurs là. Il faut qu'il fasse beau déjà sur Terre.
Ça, c'est la première chose.
Et il faut deuxièmement
qu'il y ait des éruptions solaires. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Mais pour revenir un peu sur le filtre, oui, c'est un filtre spécial, car justement ces éruptions solaires ont tendance à émettre dans la raie H-alpha, et le fait d'utiliser ce type de filtre met clairement en évidence ces éruptions par rapport à un filtre classique, je dirais, pour observer le soleil.
Ce qu'on va observer aussi, on aura des filtres qu'on appelle soit pleine ouverture ou le fameux Millar, qu'on utilise pour les éclipses, notamment pour observer le soleil.
Oui, là, on verra le disque solaire.
Le disque solaire, on peut voir les taches, etc. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas avec ça. Ça diminue le nombre de rayons lumineux qu'on reçoit, mais en fait, on n'arrive pas à séparer les franges, qu'on peut dire presque, la lumière du soleil pour avoir juste la partie qui nous intéresse, pour voir les éruptions. Et ça, il n'y a que le filtrage alpha qui permet de le faire. Bah, le plus visuel.
Ouais. En général,
ouais. Parce que bien sûr, ça rayonne dans d'autres raies. Donc ça va être assez visuel. C'est ce que peu de personnes ont vu. Hein. Beaucoup de personnes ont vu le disque solaire par rétroprojection, ou alors avec un
diffuseur. Ah oui, ça, c'est souvent, surtout les astronomes amateurs qui connaissent ça. Mais là, on va le montrer au public.
Voilà, donc le filtrage alpha, c'est assez visuel. Donc venez à 19h, vous regardez le soleil. Et après, vous allez manger, vous revenez pour le début de la tombée de la nuit, pour observer le ciel nocturne.
Ah, ne venez pas à 23h en disant « j'ai loupé le soleil, est-ce que vous ne pouvez pas le remettre hein, ?» Parce que là, on ne pourra pas.
Là, on ne pourra pas. Donc les dates à retenir, 24 juin à la conférence, le 20 juillet, le samedi soir, et dès 19h, les ciels de Nantes. Et on arrive directement au mois d'août.
On arrive au mois d'août. Hein. Mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faudra être là, au Grand Blottereau, vers le début août, vers le 10 août.
On sera là. C'est le même phénomène dont on a parlé la dernière fois.
Voilà.
C'est déroulé au mois de mai.
Voilà. C'est le passage du soleil derrière la Grande Stèle, qui est une œuvre d'art monumentale, qui avait été commandée par la ville de Nantes, au sculpteur Lambert. Et il y a là, c'est une grande pierre, qui fait 7 tonnes, qui est haute de 3 mètres, et qui est, où il y a une rosace au milieu. Et cette stèle est orientée au nord-est, et le soleil, au moment où il se lève, à un moment donné, il va passer derrière. Alors évidemment, ça se passe tous les jours, on va dire. Enfin, tous les jours, le soleil se lève, mais il ne se lève pas forcément à l'est.
Et juste derrière.
Voilà, il se lève à l'est, en fait, juste aux équinoxes hein, de printemps et d'automne. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Il se lève plutôt au sud-est. Il se couche au nord, au sud-ouest. C'est-à-dire que sa course dans le ciel est relativement courte. Et donc, il se lève devant la stèle, on va dire. Enfin, devant, au sud de la stèle. Et alors, plus la saison s'avance, plus il va se lever vers le nord. Et en été, d'ailleurs, il se lèvera carrément au nord-est pour se coucher carrément au nord-ouest. Et c'est pour ça qu'il a une course très très longue dans le ciel. Donc entre les deux, son lever, si vous voulez, le point où il se lève, ça va s'avancer vers le nord-est.
C'est-à-dire au niveau du paysage,
ça va s'avancer vers le nord.
Il ne se lève pas toujours en même endroit par rapport
à l'horizon. Il se lève pas toujours au même point de l'horizon. Voilà. Hein. Donc il se décale, et à un moment donné, il va passer derrière la stèle. Alors le tout, c'est qu'en passant derrière la stèle, il soit juste à bonne hauteur pour embraser la rosace. Et alors ce phénomène-là a lieu tous les ans, début mai. Donc on l'a vu vers le 10 mai, on était l'observer. Donc nos calculs se sont avérés exact.
Même dire la fin, c'est qu'une fois que la stèle était érigée, ou encore qu'elle était quasiment
finie, on a tout calculé.
On nous a demandé de calculer pour savoir s'il y avait un phénomène à voir.
Voilà, c'est-à-dire, en fait, on ne savait pas s'il y aurait quelque chose.
C'est pas nous qui avons fait la sculpture. Non. Elle est très bien d'ailleurs, mais c'est vrai quoi.
On n'avait pas le choix de l'emplacement ni de l'orientation. On nous a simplement demandé de calculer s'il y aurait quelque chose à voir. Donc ces calculs se sont avérés bons. Et début mai, on a pu le vérifier. Et là, en août, ça va refaire la même chose dans l'autre sens. Donc on va voir ce phénomène-là. Alors il faut savoir que ce phénomène-là, vous pouvez le voir tous les matins aux alentours de 7h du matin. Hein, donc un petit peu avant, un petit peu après, ça dure 10 minutes le phénomène.
Et au mois d'août.
Oui, au mois d'août. Non, et il faudra venir à partir du 4-5 août, et ça va jusque vers entre vers le 15, pas plus. Hein. Et on dira. Et puis nous serons présents d'ailleurs le dimanche 11 août.
Voilà.
La Société d'Astronomie de Nantes sera là le dimanche matin, 11 août, à partir de 6h30 le matin, pour vous recevoir, pour donner toutes les explications sur le phénomène. On en tait qu'ils seront là, et à 7h, on va tous ensemble l'admirer. Et il faudra se tenir donc à peu près à la hauteur du 75 boulevard Auguste Penaud, c'est-à-dire le grand boulevard qui longe le parc du Grand Blottereau quand on va de la mairie de Doulon au Vieux Doulon, hein, ce grand boulevard. Vous prenez la moitié, vous avez une entrée du parc du Grand Clotereau, et cette stèle se trouve derrière. Je donne toutes ces explications parce que c'est vrai que si les gens ne connaissent pas, ils vont pas trouver. Alors que c'est très facile.
Je pense qu'il y aura encore des articles en presse quand nous
verrons. Il y aura des articles, voilà. Il y aura même un très bel article dans
Nantes Passion,
puisque c'est une œuvre commandée par la ville de Nantes. La ville de Nantes très intéressée de sa mise en valeur par ce phénomène astronomique. Donc, ils vont faire un bel article dans Nantes Passion du mois de juillet ou du mois d'août, je ne sais pas, avec une photo du phénomène tel qu'il s'est produit en mai.
Donc, c'est vrai que c'est un phénomène très agréable à voir. On a eu une cinquantaine de personnes, je crois, à peu près.
Oui, oui. Puis c'est
le premier mois de mai. Et en fait, les gens étaient assez émus, parce que c'est vrai que c'était même un peu la bousculade pour voir le phénomène, parce qu'en fait, il faut être parfaitement dans l'alignement. Donc, c'est vrai que les gens se poussaient un peu pour pouvoir voir le phénomène, parce que si vous êtes un peu trop décalé, bien sûr, vous voyez rien.
Donc, c'était le 5 mai.
Donc c'est vrai que c'était un petit moment émouvant. Je pourrais que moi là, à titre personnel, je pensais pas que ça allait être aussi pas joli.
Ah, mais ce qui est émouvant, c'est de voir que la précision des calculs et le fait que le mouvement de la Terre, les astres, vraiment, ça donne vraiment c'est conforme aux prévisions. Newton avait raison.
Voilà, c'est vrai, c'est assez agréable.
Vive les Anglais.
Donc si on répète un peu les dates, le 24 juin, Chomaz, la conférence. Le ciel de Nantes le 20 juillet, un samedi, le 24 juin c'était un lundi, et puis le dimanche 11 août à 6h30 pour avoir tous les détails et les explications avec la Société d'Astronomie Nantes au parc du Grand Blotereau. On va parler très rapidement, qu'on va annoncer, tu vas nous présenter toutes les conférences qui sont déjà presque finies,
mais
on va faire tout à l'heure.
Ouais.
C'est-à-dire en fait qu'on est en pleine fin de préparation du cycle 2002-2003.
On a déjà quelques pistes largement ouvertes.
Voilà, donc on a quelques pistes confirmées. On a des dates confirmées.
Et on a des gens vraiment très très intéressants. Donc quelques vedettes.
Voilà, donc on va en parler tout à l'heure.
Ça c'est pour vous faire patienter jusqu'à après.
Tout de suite, nous allons aborder les ciels de Nantes avec Frédéric.
Le ciel du mois.
Ciel du mois, ouais.
Oh là là. Ça sera pour le 20 juillet.
Ouais, le 20 juillet, les ciels de Nantes. Le ciel du mois par Frédéric Brion. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce mois-ci,
dans le ciel? Pas grand-chose par rapport au mois précédent.
Ah ouais, c'est qu'on a eu un mois qui était chargé.
On a eu des mois chargés, les mois d'avril et puis de mai. Et malheureusement, toutes les belles planètes qu'on a pu voir, qu'on a pu admirer le soir, tous les rapprochements planétaires qu'on a pu voir ces derniers mois, ça commence un peu à s'épuiser et les planètes commencent à disparaître peu à peu derrière le Soleil. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont passer derrière le soleil.
Donc, elles vont être là en plein jour.
On les retrouvera tôt le matin, dans, je dirais, quelques mois, même d'ici juillet. Alors, premièrement, si on les reprend à peu près une par une, donc on a Saturne qui est vraiment derrière le soleil ce mois-ci. Elle passe en conjonction, c'est-à-dire que la Terre, le soleil et Saturne sont alignés le 9 juin. Donc,
surveillez vos horoscopes, il y aura encore des cochonneries dedans.
Voilà. Donc vous ne l'observerez pas ce mois-ci. Ça sera aussi très dur d'observer Mars, qui s'éloigne très très peu du Soleil le soir. Il y a une petite fenêtre d'un quart d'heure pour pouvoir l'observer après le coucher du Soleil.
Sachant que le coucher, c'est assez lumineux, quoi.
Voilà, autant dire que c'est quasiment impossible. Jupiter va faire de même d'ici peu de temps, d'ici la fin du mois, elle ne sera plus observable. Par contre, vous pouvez encore l'observer en ce moment et même profiter de ce soir pour observer son rapprochement.
Ouais, parce que là, on a un ciel qui paraîtrait être bien.
Ouais, ça se couvre, mais profitez-en un petit peu. Mais ce soir, elle est en rapprochement avec Vénus. Alors, vous allez les repérer assez facilement sur l'horizon nord-ouest. Deux astres très brillants, ce sont les plus brillants du ciel, je dirais, par la Lune. Donc, à droite, vous aurez Vénus et à gauche, Jupiter. Donc les deux planètes les plus brillantes du ciel. Donc profitez-en. J'ai parlé de Mercure, de Saturne, de Jupiter, de Vénus. Alors Vénus, je dirais, c'est la seule qui va rester.
C'est bien.
C'est la seule qui va rester. Elle, par contre, a plutôt tendance à monter dans le ciel du soir. Et on l'observera encore pendant les mois qui viennent. Puis on pourra même l'observer lors de Ciel de Nantes. Ce sera même peut-être bien la seule planète qui nous restera ce soir-là avec la Lune. Donc Vénus, on pourra l'observer au télescope et puis regarder un peu sa phase là qui a tendance à croire vers un peu comme la Lune, vers un quartier, quoi.
Toujours intéressant à voir, c'est vrai que les planètes, quand on regarde Jupiter et Saturne, vu qu'on est à l'intérieur entre la distance du Soleil, et on voit aucune phase, alors que Vénus, on voit comme la Lune, voilà, des phases. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir en fait que bon, là on croit qu'elle va être toute ronde et puis maintenant quoi.
Du fait que ce sont des planètes internes, ce qu'on appelle internes. Mercure ou Vénus peuvent présenter des phases telles que la Lune, des phases de croissant, des phases de premier quartier, de pleine Vénus.
Voilà.
Mais ce qui est le plus impressionnant quand même sur Vénus, c'est la période où elle est en très très fin croissant et où elle a un diamètre apparent extrêmement conséquent, quoi. Et là, c'est assez joli à voir. Mais on attendra encore quelques mois pour observer ceci.
Je voulais dire parce que Vénus, en fait, tourne autour du Soleil comme la Terre, et comme elle est entre nous et le Soleil. Quand elle est de l'autre côté du Soleil, on la voit toute petite, mais pleine. Voilà. Quand elle est pleine, elle est loin. Mmh. Et plus elle tourne autour du Soleil, elle se rapproche de la Terre pour finir par être entre nous et le Soleil. Alors là, c'est la nouvelle Vénus, se pourrait dire, pour comparer à la nouvelle Lune. Mais dès qu'elle est un peu décalée par rapport à cette position, comme elle est tout près de nous, elle est très grande en diamètre apparent. Mais elle a un très fin croissant, un croissant de plus en plus fin au fur et à mesure qu'elle vient entre nous et le Soleil. Et donc c'est assez impressionnant de voir ce croissant, puisqu'on ne s'attend pas à ça de la part de Vénus. Hein.
Elle peut, par du moins à cette période-là, elle atteint le plus gros diamètre apparent de toutes les planètes.
Les phases de Vénus avaient été observées par Galilée, puis ça lui a fait dire qu'en fait, Galilée, ça présentait que des phases comme la Lune. Hein, donc c'était un peu comme une Terre qui avait des montagnes comme la Lune. Enfin, c'est tout cela, ça faisait partie d'une même réflexion. Alors, ça participait un peu à notre vision du monde.
Voilà.
Donc par rapport à ces planètes, mais ici il reste quand même quelques planètes à observer. Pas des plus faciles, mais vous pouvez observer, je dirais, les planètes les plus lointaines du système solaire. Là, c'est la bonne période en ce moment. Alors, essayez d'observer Uranus, Neptune. Alors, faut quand même se munir de bonnes cartes. Et puis,
il faut savoir où elles sont, hein, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu, celles-là. Enfin, on les voit, mais on croit que c'est des étoiles.
Théoriquement, Uranus, on le voit, mais c'est vrai que c'est très très difficile à repérer. Et ce qu'il faut faire, ouais, c'est prendre une bonne carte, avoir au minimum un bon petit instrument, du moins pour Uranus et Neptune, et ensuite aller se balader un peu parmi les étoiles et puis repérer ces petits disques, parce que ça, au contraire des étoiles, ça n'a pas une apparence ponctuelle dans un télescope, mais ça a quand même un petit disque qui est souvent de couleur, je dirais, bleuâtre, verdâtre pour Uranus et Neptune. Donc ça, c'est les deux avant-dernières, et il y a la planète qui est peut-être le plus facilement observable ce mois-ci, c'est Pluton. Mais je dirais par rapport à...
Elle a été découverte en 1910 déjà, donc ouais. C'est pas ça.
1930, cher Thierry. Je sais pas, t'avais envie de dire 10, voilà. faut pas te contrarier.
Non, c'est la comète de 1910 qui a eu.
Oui.
Voilà, c'est la comète de 1910.
Par Miss William Tombaugh.
Voilà, en 1930. Et là, donc je disais Pluton parce que effectivement, c'est la mieux placée dans le ciel. Elle est en ce qu'on appelle en opposition, c'est-à-dire que la Pluton, la Terre et le Soleil sont alignés. Et donc c'est la meilleure période pour l'observer, mais malheureusement, c'est une planète qui nécessite de très bonnes cartes déjà. Et ensuite, à une brillance qui fait qu'il faut au minimum, je dirais, être équipé pour l'observer visuellement d'un instrument d'un diamètre au moins équivalent à 250 mm. Donc ça commence déjà à être des télescopes assez conséquents. Et là, c'est vrai qu'il est très difficile de la repérer par rapport à, je dirais, un environnement d'étoiles qui peut être assez riche. Mais il faut essayer, c'est toujours assez intéressant de dire là, on voit Pluton. Voilà.
C'est une prouesse parce que à peu près 5-6 milliards de kilomètres du Soleil, quelque chose qui n'est pas plus gros que la Lune, c'est assez curieux, quoi. C'est difficile, quoi.
Disons, ça reste pour un néophyte, ça restera une étoile, quoi. Donc, ça n'en est pas une, elle pourrait être confondue à une étoile.
Mais si on regardait, par exemple, Pluton à l'intervalle d'une journée, bon, entre deux nuits, on verrait un faible mouvement apparent dans le ciel, mais on verrait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus proche qu'une étoile, parce qu'il a bougé sur le fond du ciel.
C'est comme ça qu'elle a été découverte, d'ailleurs.
C'est aussi comme ça qu'elle a été découverte, comme, je dirais, tous les petits planètes, les astéroïdes ou autres. Et alors, si vous avez envie de faire une petite observation spécialisée, cela on parle de Pluton, essayez le 1er juillet, parce que Pluton, justement, va occulter une étoile, c'est-à-dire va passer devant une étoile. Et si vous réussissez à repérer l'étoile, mais pas à repérer Pluton, vous saurez qu'à un moment,
l'étoile, il y a quelque chose qui va passer devant.
Voilà, l'étoile va perdre un peu en luminosité. Et là, vous vous direz, bah, je vois peut-être pas Pluton, mais je sais qu'elle est devant. Voilà.
Donc Pluton, plutôt le 10 juillet.
Le 1er juillet.
Le 1er juillet.
Dans la nuit du 1er au 2, quoi, vers 1h du matin. Donc en réalité, le 2 juillet, en heure légale. Donc voilà pour les planètes du mois. Parler un peu de deux phénomènes qui ne seront pour nous très peu visibles. Parler d'éclipses.
Ah, oui, quand même.
D'abord, parler d'une éclipse de lune qui aura lieu le 24. Et c'est une éclipse de lune par la pénombre. Donc, lorsqu'on parle d'éclipse de lune, on voit disparaître une partie ou entièrement la lune lorsqu'elle est partielle ou totale, et elle est masquée par l'ombre terrestre. Une éclipse par la pénombre, malheureusement, c'est pas directement le principal cône d'ombre qui touche la Terre, et c'est très peu marqué, c'est même quasiment inobservable à l'œil nu. On voit pas la différence.
Ah oui, on la voit pas rougir, on la voit pas.
On voit même pas une baisse de luminosité. Il faudrait regarder avec des instruments assez précisément, mais une éclipse par la pénombre, ça a rien d'exceptionnel. Je vous l'aurais pas dit, comme qui vous n'auriez pas su qu'il y avait une éclipse ce 24 juin.
Ben heureusement que tu nous l'as dit.
C'était juste à titre d'information. Et puis pour les aventuriers, il y a aussi une éclipse de soleil ce mois-ci, une éclipse annulaire, donc qui est un peu équivalente à une éclipse totale, mais du fait que la lune est trop éloignée de la un diamètre apparent inférieur au Soleil, elle ne recouvre pas complètement le Soleil au moment maximum de l'éclipse, comme une éclipse totale. Et au moment maximum de l'éclipse, lors d'une éclipse annulaire, on voit comme un anneau qui entoure le soleil, entre guillemets, ou qui entoure la lune.
Mais il y a des fans des éclipses annulaires. Il y a ceux qui aiment les éclipses totales, et puis il y en a qui aiment les éclipses annulaires. Parce que il y a un assombrissement qui est beaucoup moins spectaculaire, évidemment, que lors d'une éclipse totale, puisqu'il n'y a pas la nuit, il n'y a pas cette nuit qui tombe. C'est vraiment, il fait jour, mais il fait une espèce de clarté d'orage, comme lors d'une éclipse partielle. Et c'est très troublant quand même. Et je sais qu'il y a des gens qui font le voyage des États-Unis vers l'Australie quand il y en a une.
Ça reste assez impressionnant à voir, par rapport à une éclipse partielle, parce qu'il y a quand même, vous voyez quand même tout le disque lunaire devant le soleil. Donc ça reste assez impressionnant. Donc pour les aventuriers, ça sera quand même assez difficile pour eux, parce que la ligne de visibilité de l'éclipse se situe en mer, en plein Pacifique. Et à part une petite pointe du Mexique où elle sera observable, ça sera quand même difficile à voir. Donc,
ils sont où les navigateurs là ? Il n'y a pas une course actuellement là ? Pas de Perron qui était sur un... C'est une bata hardcore, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus.
Il
est arrivé ?
Bon, c'est comme quoi j'écoute les infos. Hein.
Je ne sais même pas s'il a arrêté.
En fait, il n'y aura personne pour aller voir cette éclipse, quoi. Non, peut-être qu'il n'y a que Mexicains.
Quelques requins.
Quelques requins, une troque à chalot.
Ça
a
peut-être
une influence. Ah oui,
les mecs disent que la Lune influence le...
On va avoir plein de petits requins 9 mois après. Non, je ne connais pas la durée de la gestation chez le requin. Mais...
Donc voilà pour les dernières nouvelles du mois. Et puis, profiter encore de...
Donc il faut quand même dire comme qu'il y a tout le reste du ciel à observer. Alors, n'hésitez pas à prendre des constellations, ça permet quand on vous parle que telle planète est en telle constellation, c'est quand même beaucoup plus simple de...
Et si vous ne savez pas, on a d'excellentes cartes du ciel.
Voilà.
Enfin, vous offrir moyennant une compensation.
Financière.
Oui. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité.
C'est vrai qu'on rentre maintenant dans une période qui est assez, assez belle que l'été. Et, bon, c'est vrai que le temps est souvent clément à cette époque.
Alors, on peut dire quand même, j'allais dire aux spectateurs, au public, que les pleines lunes d'été sont relativement basses, justement parce que le soleil est très haut. Voilà. Donc ça fait des pleines lunes, bon ça peut faire des jolies photos lorsque la lune se lève sur un horizon montagneux ou bref ou dans un champ, ça peut être très 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 sympathique. Et bon, on la voit quelquefois plus grosse, mais ça c'est une illusion d'optique. Thierry nous l'a magnifiquement expliqué il y a quelques émissions, mais j'y crois pas trop. Moi, je vais prendre une règle, je vais vérifier si ce que tu dis est vrai.
Vérifie.
Ça me paraît étrange, parce que je l'ai réellement vue plus grosse. Moi,
Mire, elle est physiquement plus loin de toi déjà, donc. Quand elle a l'horizon.
Oui, mais enfin, voilà, c'est pour dire que les pleines lunes d'été sont basses parce que le soleil est haut, les pleines lunes d'hiver, c'est l'inverse. Elles sont hautes parce que le soleil est bas.
C'est lié un peu aussi au mouvement
éclectique. Oui, il y a de ça.
Les constellations traversées par l'écliptique en été sont basses. Elles sont basses au-dessus de l'horizon. Mais c'est aussi des constellations très très intéressantes parce que. C'est par là que, je pense en particulier au
Sagittaire,
par là que passe le centre de notre galaxie et il y a une densité d'étoiles qui est assez fabuleuse. Et on voit très facilement en été, il suffit d'avoir un ciel à peu près noir, un ciel de campagne par exemple, on voit assez bien comme un effet de nuage. Qui traversent le ciel. Et ce ne sont pas des nuages, c'est tout simplement la densité d'étoiles qui est beaucoup plus importante.
Ça fait une fumée d'étoiles, quoi.
Ouais, voilà, ça fait un voile, une sorte de voile.
On omet des fois de rappeler aux gens qu'il ne faut pas hésiter à prendre des jumelles pour pouvoir observer le. Parce que quand on prend des jumelles, on s'aperçoit que ce nuage que tu signales, c'est plein d'étoiles.
Par contre, si vous prenez du jumel, soit vous avez la possibilité de monter sur un pied, il faut avoir le petit adaptateur qui va bien, ou alors il faut s'accouder sur quelque chose, parce que autrement, c'est assez fatigant les jumelles.
Essayer de se caler,
ouais,
ou de s'asseoir.
Oui, tu t'allonges aussi. Et alors, c'est vraiment que cette direction du Sagittaire est très belle, parce qu'en plus des nébuleuses, même aux jumelles, on peut voir des petits nuages, on voit plein de petites nébulosités, des petites taches. Ah ça, faut quand même pas se priver, en dehors des phénomènes remarquables, des choses courantes qui sont toujours un spectacle magnifique.
Au ciel du mois, on vous parle que des phénomènes remarquables qui changent entre guillemets de mois en mois, mais il y a toujours les constellations, les petits phénomènes, il faut profiter justement quand il y a un peu moins de choses entre guillemets à voir, d'en profiter pour voir les choses.
Observer autre chose et puis
apprendre son ciel.
Dans le ciel, oui. Encore un paquet de trucs à observer.
Tout à fait. Merci Frédéric sur Alternantes avec la Société d'Astronomie de Nantes. Tout de suite, Daniel Horling va vous présenter la prochaine conférence du lundi 24 juin. Déjà avec un titre qui peut paraître bizarre, des séquoias dans les
étoiles. Il m'a tué mon effet.
Pour une fois que c'est pas l'inverse.
Oh, ben dans ce cas, je vais dire les nouvelles. Ouais. Parmi les nouvelles, j'ai fait mon ménage et puis mon deuxième chat s'appelle Einstein. Voilà,
c'est bien
fait. Oui, parce que vous savez ce que c'est des séquoias, mon cher Thierry et mes chers collaborateurs et amis.
Voilà.
Ben, ce grand arbre, n'est-ce pas, qui défie les millénaires, qui a un diamètre tellement impressionnant qu'on peut faire passer des jeeps au milieu. Alors pourquoi des séquoias dans les étoiles? Ben, tout simplement parce que toute la matière qui a servi à faire ces séquoias sur Terre, y compris notre propre substance, tous ces matériaux se sont formés un jour dans les étoiles. Et donc, c'est très intéressant de savoir comment comment le cosmos fabrique certains matériaux. Et pour le savoir, eh bien, on peut toujours faire des spéculations. On connaît bien sûr la chimie des matériaux. Mais enfin, on connaît surtout la chimie de par les expériences qu'on a faites en chimie sur Terre. Et c'est comme ça qu'on peut extrapoler à ce qui s'est réellement passé dans l'univers à travers des expériences de chimie, des expériences de physique nucléaire, et des expériences maintenant en faisant interagir la matière dans les grands accélérateurs, des matériaux qui sont hautement accélérés, on les fait tomber en interaction, il se passe des choses, on crée des éléments.
J'aime bien les il se passe des choses.
Dans des états,
pas trop quoi, mais...
dans des états qui ne sont pas naturels sur Terre, qui ne restent pas longtemps, puisque les matériaux sur Terre s'agencent pour faire un bouillonnement chimique, alors que dans le cosmos, très souvent, il y a très peu, la densité de matière est très faible, et ces états un peu particuliers peuvent exister pendant assez longtemps. Et pour comprendre ce qu'on voit dans les nuages interstellaires, dans les matériaux cosmiques, pour mieux le comprendre, on fait donc des expériences dans des grands accélérateurs, notamment donc dans des grands accélérateurs de particules. On appelle ça des collisionneurs ou des accélérateurs de particules. Les grands accélérateurs, vous en avez entendu parler, il y en a près de Genève. Hein, la rumeur populaire dit que quand on fait marcher l'accélérateur à Ferney-Voltaire, là, à côté de Genève, il faut couper le jet d'eau du lac, parce que sinon le courant, ça suffit pas. Et ce sont bien sûr, ce sont des légendes. Et il y a un accélérateur, Dion-Lourd, où ça? À Caen. À Caen, un truc du CEA. Et oui, un grand accélérateur s'appelle le GANIL, le grand accélérateur d'ions lourds. Un ion, c'est, tout le monde le sait, c'est un atome. Oui, ce n'est pas un ion. C'est un atome à qui il manque des électrons, ou qu'il y a des électrons entre autres. Donc c'est une particule chargée, assez lourde, puisque c'est plus lourd qu'un électron, hein, forcément, ce sont des atomes. Alors on essaye aussi de faire ça avec des atomes relativement lourds, des atomes métalliques ou autres qui sont assez lourds, pour obtenir donc tous ces effets d'interaction dans ce GANIL.
Une petite précision, le N de GANIL, ce que tu as dit, grand accélérateur de
national. C'est voilà, oui, c'est mais non, c'est pas un mot qu'on aime plus de nos jours.
Ouais. Enfin, non, mais c'est pour les gens qui essayaient de trouver
oui,
la signification des lettres.
Absolument, absolument. Donc ce fameux... Alors, Philippe Chomaz...
Donc il va intervenir le lundi 24.
Alors, oui, mais on va dire tout ça, on va dire patience. Alors, il intervient surtout, on profite de sa venue à Nantes, parce qu'il vient à l'université de Nantes pour voir des étudiants, etc., etc. Et également, il a écrit un livre qui s'appelle « Les séquoias dans les étoiles », et il va venir dédicacer son ouvrage, et on en profite, donc on le fait venir. C'est pour ça qu'on a cette conférence un peu extra-cycle. Alors, quel est le... Donc, je donne quelques éléments du contenu de cette conférence. D'où provient tout l'or de l'univers ? Hein, que sont les mystérieux atomes qui n'ont pas survécu sur Terre? Donc aujourd'hui, grâce aux accélérateurs de particules, les chercheurs sont capables de créer par transmutation. La transmutation, c'est de créer de nouveaux éléments à partir d'éléments anciens. Et on explore ainsi finalement le cosmos.
Voilà. C'est aussi que l'histoire des grands accélérateurs, ça permet aussi d'avoir des états un peu intermédiaires de la matière qu'on n'a plus accès maintenant.
Absolument.
C'est qu'on est quasiment sûr qu'avant on était comme ça, maintenant on est comme ça, il nous manque...
Les maillons, les chaînons manquants, on les recrée en laboratoire. Quelquefois, ce sont des chaînons qui durent quelques fractions de secondes ou quelques millisecondes.
Ils sont indispensables pour la compréhension des
phénomènes. Mais par la photon, on les saisit au vol, si je puis dire, et après, ça permet de bien comprendre. Et vraiment, ce sont des recherches très, très de pointe. Et qui est Philippe Chomaz? Alors, il est bien sûr chercheur au CEA, donc commissariat à l'énergie atomique, à ce fameux GANIL, à Caen, accélérateur national d'Ion-Lourd. Il est aussi membre du comité national du CNRS. Et alors, il est spécialisé dans la description microscopique des matériaux, et notamment des noyaux atomiques.
Et il est physicien, plus, au départ.
Il est physicien nucléaire,
précisément.
Comme beaucoup d'astrophysiciens sont avant tout physiciens nucléaires. Alors, il y a ceux qui se mutent en cosmologistes. Alors là, il y a quand même des problèmes pour l'extrapolation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Philippe Chomaz, lui, se contente de décrire la matière microscopique et la façon dont elle se forme et dans quelles conditions. Et on reste très près de ce qu'on observe, d'ailleurs, après... dans le cosmos, à travers de la spectroscopie ou d'autres techniques de pointe pour déceler justement tous ces états de rayonnement à hautes énergies. Alors, c'est quand même quelqu'un qui est... Alors, il a beaucoup publié, notamment dans les ouvrages de vulgarisation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il a participé à des films, à des expositions, mais surtout, il a créé en 1998... il a créé un centre de culture scientifique et technique en 98 de Basse-Normandie qu'il préside. Et aussi, en 97, il a créé quelque chose qui est très connu maintenant, qui s'appelle les barres des sciences. C'est lui qui a pris l'initiative avec Marie-Odile Monchicourt. Il a eu le prix Jean Perrin en 2001, le prix Jean Perrin de culture scientifique, décerné par la Société française de physique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant, qui risque d'être passionnant. Et on se dit, après tout, ça vaut le coup, même en juin, si vous ne savez pas quoi faire... le lundi 24 juin.
Même si vous savez quoi faire.
Faut et si vous savez quoi faire, réfléchissez bien avant pour savoir si vous n'avez pas loupé quelque chose avec la Société d'Astronomie, et venez à la conférence de Philippe Chaumaz, des séquoias dans les étoiles, comment se forme la matière cosmique avec les grandes expériences, les grands accélérateurs passionnants et quelqu'un qui est de pointe. Hein, ne loupez pas ça.
Merci Daniel, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir à chaque fois. C'est quand est-ce que vient telle personne? J'ai eu un article magnifique, bah, il était là la semaine dernière.
Voilà, dernière, après donc, on viendra nous dire, mais tiens Philippe Chaumaz, je l'ai vu à la télévision, c'est un homme remarquable, quand est-ce que vous le faites venir? Ah oh, désolé madame ou monsieur, c'est bête parce qu'il est venu lundi dernier, le 24 juin.
Hein, voilà. Bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez... profitez-en, toutes les conférences. Par contre, une petite information, comme tu l'as précisé tout au départ de l'émission, c'est une conférence qui n'est pas dans le cycle. Ça veut dire que les abonnés aux conférences doivent payer pour une fois leur place.
Voilà.
Et ne pas bénéficier du tarif préférentiel des abonnés.
Les enfants, c'est moins cher, mais là, ça ne s'adresse pas vraiment aux enfants, il faut le dire quand même. Hein. C'est pas la sortie familiale, mais enfin, c'est une petite sortie de juin pour bien finir l'année. Avant l'été, vous remplissez bien la tête, et après, vous achetez son bouquin, et puis vous lisez ça. Vous voyez, on vous trace un programme, vraiment, c'est du...
C'est simple, d'autoroute, hein.
Tout c'est simple, fait. Avec la SAN, votre vie se simplifie.
C'est pas mal, ça, voilà. Regardez ce... Alors, merci Daniel. Tout de suite, nous allons changer complètement de sujet. On va parler de grands événements, les grands événements, de grands objets ou de grands télescopes, les grands yeux. Dominique Ménel, c'est à toi. Alors, les grands yeux, c'est un petit titre.
Yeux, les longs yeux, on a parlé des longs yeux. Moi, je vais essayer surtout ce soir de vous expliquer comment on a pu, depuis la surface du sol, depuis la surface de la Terre, aller au-delà des limites qui sont imposées par l'observation à travers l'atmosphère. Donc vous savez, pour ceux qui ont déjà observé, que lorsque on regarde le ciel, petite seconde, je crois qu'il y a...
On ne voulait pas t'interrompre, micro.
Voilà, j'ai changé de micro en temps réel, vous voyez, encore une preuve qu'on est en direct.
Et moi j'en ai plus.
Ah, voilà,
comme ça on va plus d'attendre.
Je n'osais pas le dire. Donc effectivement, je reprends, donc, quand on fait une observation de corps céleste, on s'aperçoit que cette observation est perturbée par différents phénomènes, et le plus important est sûrement ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder une étoile comme Sirius, par exemple, celle-ci est très caractéristique, c'est une étoile qu'on voit plutôt l'hiver, qui n'est pas très haute sur l'horizon, et Sirius scintille, elle clignote, réellement, le scintillement est très 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 net, très visible. Et ça, c'est dû au fait que les masses d'air qui composent l'atmosphère sont en perpétuel mouvement. Ces masses s'empilent les unes sur les autres, elles sont stratifiées, on peut dire, et on a également des phénomènes de réfraction. Phénomène de réfraction que bon, tout un chacun a déjà pu voir, c'est ce qui se passe quand on a un bâton qui est plongé dans l'eau, on voit le bâton cassé. Tous ces phénomènes évidemment gênent énormément la visibilité et l'observation des astres. Alors évidemment, on a également cherché à passer outre les limites qui sont dues à la traversée de l'atmosphère lorsqu'on fait ces observations.
Parce que le problème, c'est que les astronomes sont quand même obligés de respirer, donc ils auraient pu enlever l'atmosphère, ça aurait été parfait, mais bon.
Oui, il aurait fallu souffler quand même assez fort.
Donc on est obligé de les garder.
Alors il y a eu plein d'idées, il y a une trentaine d'années de ça, l'idée ça a été, puisque l'atmosphère nous gêne, on va faire des observations en dehors de l'atmosphère. Donc ça a donné lieu à des études et puis qui se sont concrétisées par l'envoi de télescopes en dehors de l'atmosphère. Et je pense que chacun d'entre vous a entendu au moins une fois dans sa vie parler du télescope Hubble Space Telescope, HST.
C'est le plus connu en fait.
C'est le plus connu, il y en a d'autres. Mais celui-ci, il est intéressant parce que il est équipé d'un miroir qui est quand même relativement grand, 2,40 m. Et Il a toute une histoire que sur laquelle je reviendrai pas, mais que qui a fait ses heures de gloire et en même temps qui a posé pas mal de soucis aux gens qui l'exploitaient. Mais bon, mettre un télescope en orbite autour de la Terre, c'est une aventure, et c'est une aventure extrêmement coûteuse.
Il y a aussi un problème de temps, je ne sais pas si tu vas en parler. C'est qu'en fait, entre le moment où tu décides d'envoyer un télescope, le moment où tu peux le construire, où il va être lancé, il y a un délai qui est très très important. Ça fait une vingtaine presque, il date des années 70, 75.
Il y a un délai qui est long parce que effectivement, il faut faire les études, il faut réunir les budgets, il faut décider des volontés à un niveau qui est au niveau des États et qui serait même maintenant au niveau de plusieurs États si on voulait renouveler l'expérience. Donc, eh bien, les astronomes ont essayé de trouver autre chose. Et à cette époque-là, on a commencé à voir éclore des grands télescopes terrestres. Mais on s'est aperçu rapidement que un grand télescope terrestre ne procurera pas de gain de qualité d'observation au-delà d'un miroir de 4 mètres de diamètre si on reste dans des technologies traditionnelles, parce que justement la turbulence devient extrêmement gênante et elle perturbe une étoile qui devrait donner en principe une image ponctuelle d'elle-même, mais on a une espèce de grenouillement, on a une espèce de c'est un petit peu comme si on avait un reflet du soleil sur la surface d'une eau agitée. Voilà ce que ça donne quand on regarde une étoile avec un grand télescope. Alors l'idée, plutôt que d'envoyer un télescope en orbite autour de la Terre, eh bien, c'était de trouver un moyen pour corriger, compenser donc les effets de la turbulence. Alors comment peut-on bien faire pour compenser ces effets de la turbulence? Eh bien, sur le papier, ça semble relativement simple. Il suffit, lorsqu'on vise un corps céleste, une galaxie, une nébuleuse planétaire ou que sais-je, de trouver dans le champ d'observation une étoile, qui sera en quelque sorte une étoile référence, d'analyser sa lumière, donc de prendre en compte les effets de la turbulence, de faire un petit calcul là-dessus, et puis le trajet optique que va suivre la lumière qui vient de l'astre qu'on souhaite observer, on va le faire passer, on va le faire se réfléchir sur un miroir, pas très grand, une vingtaine de centimètres de diamètre, mais par contre très souple, et dont on aura pris soin au préalable de coller sur la face arrière de ce miroir des tas de petits actionneurs piézoélectriques qui vont déformer très légèrement, mais très rapidement, la surface de ce miroir pour que le reflet de l'image de l'astre qu'on observe soit quelque chose qui serait identique à ce qu'il serait si on l'observait hors de l'atmosphère. Alors imaginez un petit peu la puissance de calcul qu'il faut pour analyser la lumière de l'étoile témoin, pour calculer les compensations à appliquer et envoyer les informations au miroir, donc par le biais de ces petits actionneurs qui se trouvent derrière, sachant que le miroir est capable de se déformer à peu près à raison d'un millier de fois par seconde. C'est l'ordre de grandeur.
Il y avait un problème, c'est vrai que le gros problème, c'était le problème technique au niveau informatique, surtout à l'époque, hein, quand les prémices, c'est qu'en fait, il fallait pouvoir une puissance de calcul qui fonctionne, qui fasse, il arrive à faire la calcul, donc la correction du miroir, plus de 1000 fois par seconde. Donc en intégrant toutes les données, il y a un modifier les données, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des ordinateurs, mais il fallait vraiment des gros ordinateurs, puisque en fait, c'est très, ça vous fait une quantité de calcul phénoménale pour arriver. Se changer une ou deux fois, c'est assez facile, mais presque le changer en temps réel, c'est-à-dire en fait que en continu, le miroir le déformer en continu de ce que passe l'atmosphère, et c'est vrai que c'est ça qui posait un des problèmes.
Effectivement, et puis sans compter que derrière un miroir secondaire déformable, comme un de ceux qu'on trouve sur le VLT, les VLT sont les grands télescopes de 8 mètres qui sont au Chili, il y a entre 100 et 200 actionneurs derrière chaque miroir, et chaque actionneur est capable de se déplacer, d'avoir un mouvement un millier de fois par seconde. Donc effectivement, ça représente une quantité de calcul invraisemblable. Et l'autre difficulté qu'il a fallu vaincre, c'est trouver un matériau qui soit capable de résister à ces déformations, sans se briser, sans se casser, en gardant son pouvoir réfléchissant, de façon à conserver à la sortie une image exploitable.
En fait, c'est presque le miroir secondaire en fait, qui se fait déformer. Ça ressemble presque à une crêpe avec les espèces de petites bosses. Et en fait, on lui met des petites bosses, on tire un peu dessus. Il faut encore que ça tienne pour pas tirer trop fort, pour pas que ça casse, mais il faut que ça puisse rafraîchir la lumière. Donc exactement. C'est vrai qu'il faut trouver un matériau qui puisse le faire.
Exactement.
Et parce qu'en fait, c'est ce que font les petits miroirs, ils font des petites bosses, ils font des petits creux.
Oui, alors quand on dit des petites bosses, des petits creux, c'est vraiment des petites bosses et des petits creux. Là, on est dans le micron. Hein, l'ordre de grandeur de déplacement, c'est le millième ou le centième de millimètre. Donc c'est quand même pas très très important, hein, le déplacement. Mais il est suffisant pour redresser, corriger l'image de façon à ce qu'on récupère sur non pas à l'œil, parce que maintenant derrière ces grands instruments on y colle rarement l'œil, mais derrière les capteurs électroniques, les caméras électroniques qui sont à la sortie de ces instruments récupèrent une image qui est très 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 fortement nettoyée de tous les défauts liés à la turbulence.
Donc en fait c'est là que j'expliquais un petit peu le problème qu'a vu le télescope spatial, notamment c'est le délai qu'il a fallu pour pouvoir... C'est-à-dire que si vous construisez un télescope, il faut un certain délai pour pouvoir le mettre en place, et après, il y a le problème de l'envoyer dans l'espace. Donc, il faut qu'il ait des contraintes beaucoup supplémentaires, rien que pour qu'il puisse survivre au décollage, et puis qu'il puisse être autonome, et que personne, entre guillemets, vienne le réparer, même si le télescope spatial a déjà été réparé, et puis il y a encore d'autres prévisions d'entretien normal. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec les gros télescopes, c'est qu'ils ont pu faire développement en continu sur Terre, ils ont rendu maintenant quasiment à un niveau... ce qu'on appelle l'optique adaptative, c'est-à-dire d'adapter le petit miroir secondaire, on arrive quasiment au niveau du télescope spatial, voire meilleur.
Ah ben d'ailleurs, oui, actuellement, c'est un petit peu la guéguerre entre, enfin la guéguerre, la compétition, on va dire, c'est pas une guéguerre. C'est la compétition entre le télescope spatial et puis la batterie de télescope terrestre qu'on commence à trouver essentiellement aux deux endroits sur Terre. Donc les deux endroits, j'en ai cité un tout à l'heure, sont les montagnes du Chili, les plateaux andins du Chili, donc environ en moyenne à 2500 mètres d'altitude, on va dire, mais dans une région où je vais certainement en faire rêver quelques-uns, il fait soleil 360 jours par an. Ouais. Ça vous fait pas rêver, ça?
Ah non, en fait, il y a une difficulté.
Ça me fait peur. J'ai horreur de ça. Pour mettre un il fait chaud.
Il y a deux télescopes, il y a deux paramètres qu'il faut, et l'une, que vous ayez un maximum de temps d'insolation. C'est-à-dire qu'en fait, que votre maximum dans l'année,
on va dire ensoleillement, non?
Ensoleillement, plutôt qu'insolation. C'est pour les mecs qui sont en dessous qui se prennent des coups de soleil. D'ensoleillement, un maximum d'ensoleillement. Et en plus, qu'il n'y ait pas de problème en frein géographique aux alentours. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop une grande masse d'eau. Et pas d'humidité pour pas qu'il y ait de remontée, d'échange thermique entre.
Et puis, une atmosphère la plus calme possible.
Donc on essaie de monter.
L'autre site, je vais vous faire rêver également. L'autre site, c'est Hawaï. Ouais. Mais bon, là, c'est au sommet d'un volcan qui est à plus de 4000 mètres d'altitude, il commence à faire quand même pas très chaud.
Puis en plus, les plages à Hawaï, il faut savoir qu'il n'y a pas de sable.
Il y a surtout des vagues et des surfeurs.
Ouais, puis surtout le sable, il est noir, c'est la lave volcanique. Donc, si vous voyez des photos d'Hawaï avec des beaux sables blancs, mais en fait, c'est du sable qui a été importé.
Alors, pour en terminer avec ma petite compétition, actuellement, on envoie les résultats sur Internet assez fréquemment. Les compétitions, ça consiste à choisir un champ stellaire, à choisir un objet stellaire et puis, ou un objet céleste, et puis à braquer d'une part un télescope terrestre et d'autre part le télescope Hubble, et puis on récupère des images et on compare. Aujourd'hui, on peut dire que les meilleures images sont quand même du côté des télescopes terrestres, et c'est sans avoir encore utilisé aujourd'hui la possibilité de coupler ces fameux télescopes terrestres, les télescopes VLT. Il y en a 4 gros, 4 télescopes de 8,20 m qui à terme seront capables de travailler en même temps, c'est-à-dire qu'on va les braquer sur le même objet et on va combiner la lumière qui arrive sur ces 4 miroirs de 8,20 m. Alors imaginez 4 miroirs de 8,20 m en superficie, ça fait l'équivalent d'un miroir de 16 mètres. Hubble, c'est 2,40 m, donc c'est quand même largement en dessous. Il joue dans la cour des petits Hubble, à côté de ça.
La maternelle.
Et en termes de résolution angulaire, on aura gagné un facteur 10 à peu près, ou peut-être même un peu plus, entre les meilleures images d'Hubble et les futures images du VLT.
Donc là, c'est vrai que le VLT, c'est un phénomène. C'est que c'est l'interférométrie qui a été mise au point, notamment par le français Antoine Labéry. Mais c'est vrai qu'ils ont monté 4 télescopes, je sais même pas où ça en est d'ailleurs. Le quatrième est monté, il est fini je crois.
VLT, les quatre sont en place, mais
je crois qu'il y en a 3 qui tournent.
Le quatrième est en finition, il y en a deux qui ont été reliés en interférométrie, voilà. Donc c'est la technologie qui permet
de combiner
les lumières qui proviennent de deux miroirs, et puis bah, petit à petit, là également c'est des techniques qui sont relativement délicates à mettre en œuvre, bah, on y vient petit à petit, il y a encore quelques années de mise au point, avant d'avoir la première vraie lumière interférométrique qui réunira donc les quatre télescopes en même temps.
Mais c'est vrai que celle-là, ça va être magnifique, ça.
Il faut savoir que les images d'interférométrie, enfin, le terme image n'est pas approprié, parce que en principe, l'interférométrie ne livre pas d'image.
Non, elle livre des franges.
Des images électroniques, ou plutôt des courbes, que certains, bon, les Anglais ont réussi, enfin, ont mis au point une technique pour recréer des images à partir de cela.
L'interférométrie ne donne effectivement pas directement des images, mais moyennant un gros traitement informatique, on peut recréer l'image, effectivement.
C'est vrai que ça vous fait un télescope de 16 mètres qui est difficilement faisable sur Terre, rien qu'au niveau mécanique, parce que votre télescope, il faut qu'il puisse presque observer l'horizon et qu'il puisse observer le zénith. Et en fait, au niveau mécanique, il faut avoir des objets qui soient stables, et 16 mètres, ça commence à devenir presque impossible à manipuler pour l'instant, en technique actuelle.
Il y a deux principes dans l'interférométrie, en fait, qui ont été, comme tu l'as dit, développés par Antoine Lamery. C'est d'une part l'écartement des deux télescopes, aussi petit soit-il. Il recrée en fait un télescope qui aurait le diamètre égal à la base, c'est-à-dire à ce qui sépare les deux, en principe. Donc on a un gain en superficie, disons, virtuelle. Évidemment, l'image sera beaucoup moins lumineuse qu'un vrai télescope qui aurait, par exemple, un diamètre de 100 mètres ou de 16 mètres. Mais il y a déjà ce principe-là. Deuxièmement, il y a le principe de la combinaison des ondes lumineuses qui fait qu'on va traiter ces deux ondes, on va traiter des interférences, donc c'est tout d'où le nom, et à ce moment-là, on va augmenter la résolution, c'est-à-dire le pouvoir séparateur de l'ensemble. Et c'est pas seulement lié à l'écartement joue, mais ça joue aussi à ce niveau-là. Et alors, c'est pour ça que quand on combine quatre télescopes de 8 mètres, ça fait en fait un télescope de 16 mètres. Mais ça pourrait faire tout ce qu'on veut.
C'est 16 mètres en termes de diamètre et de surface collectrice.
Voilà.
Mais en ce qui concerne les VLT, ils sont installés sur un cercle, on va dire, qui fait à peu près 140 mètres de diamètre. Donc en termes de résolution, ils n'ont plus en temps.
C'est pour ça qu'on a gagné en
quantité de lumière. En termes de résolution, on aura l'équivalent d'un télescope de 140 mètres de diamètre.
Donc là, techniquement...
Avec un équivalent de 16 mètres en surface.
Oui, non, c'est vrai que c'est assez là. Ça risque d'être la folie. Hein. On attend... C'est vrai que là, ils sont en pleine... Enfin, je ne sais pas, Fabrice Dubreuil vous en parle quand il y a des événements, comme la sortie du télescope, quand il a fini d'être... quand il est monté, etc. Parce qu'une fois qu'il est... Le miroir est fait...
C'est vrai que la dernière intervention qui a eu lieu sur le télescope spatial lui a redonné encore un petit coup de jeunesse l'intérêt de faire ces interventions, même si elles sont coûteuses, parce qu'il faut envoyer une équipe avec la navette américaine et tout le bazar, on profite quand même des dernières avancées de l'informatique et de la technique pour installer sur le télescope spatial le dernier cri des instruments. Donc à chaque intervention, on peut dire qu'on a gagné en qualité, visuelle, en qualité d'image captée par cet instrument.
C'est comme si vous preniez... parce qu'en fait, le télescope, il a été lancé, alors ça commence à dater maintenant, il y a plus de 10 ans qu'il est dans le ciel, là, non ?
Il devait être lancé en 86.
Plus de 10 ans.
Oui, il y a eu cette explosion de la navette.
86,
qui a retardé le lancement.
Et en fait, faut savoir que ça fait comme si vous filmiez, par exemple, votre jardin ou je sais pas, n'importe quoi, avec une caméra qui a 12 ans et que vous avez la possibilité d'envoyer quelqu'un chez vous pour changer la caméra ou dans le télescope, qui lui mette une caméra actuelle. Vous imaginez toutes les possibilités qu'il y a. Donc, je parle juste au niveau. Au niveau du public, professionnel, c'est encore pire.
Il y a eu le programme, ce qu'ils appelaient Nice Pictures, des belles images avec le télescope spatial. C'était un petit peu pour valoriser cet outil qui avait quand même, malgré tout, été très coûteux. Mais on le voit surtout comme un collecteur d'images optiques. En réalité, comme l'a dit Dominique, à force d'y installer des instruments, notamment des collecteurs infrarouges et des choses comme ça, ça on peut le faire que dans l'espace. Enfin, on peut bien le faire que dans l'espace, parce que l'atmosphère, malgré tout, avec les meilleures techniques du monde, on ne pourra pas résoudre le problème de l'absorption d'un certain nombre de rayonnements, notamment les infrarouges, par l'atmosphère. Donc, l'espace reste la fenêtre pour ces rayonnements-là, et le télescope spatial, il sera de plus en plus dévolu à l'observation infrarouge, ultraviolet, enfin les rayons cosmiques, etc. Plus que dans le visible.
En sachant qu'il a été adapté aussi pour le visible, donc c'est vrai que, notamment, les Européens, ils ont envoyé le XMM Newton qui, lui, observe dans le rayonnement X, mais c'est un télescope qui est fait exclusivement pour rayonnement X, donc il est vraiment adapté avec leur télescope spatial. Une des difficultés qu'il y a, c'est qu'en fait, il est adapté pour l'infrarouge, pour l'ultraviolet, pour l'optique. Dans le visible, c'est vrai que c'est il est moins pointu qu'un télescope qui se ferait spécifiquement.
Oui, mais ça reste un télescope de 2,40 m.
Ah, tout à fait.
Ouais. Alors que qu'un satellite, je sais. Bon, maintenant peut-être qu'on en voit d'autres.
Il y a des projets, de satellisation de télescopes de plus grand diamètre, mais là, ça pose également certains problèmes parce qu'il faut trouver les véhicules pour les envoyer. Que ce soit la navette américaine ou que nos fusées européennes ou russes, elles sont limitées à un certain diamètre. Il n'y a pas de fusée qui fasse 10 mètres de diamètre pour l'instant.
Il faut oublier que le diamètre des boosters de la NASA, c'est en fonction de l'écartement de queue de chevaux. Hein. On en a déjà parlé.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème technique, c'est vrai, comme tu le dis, c'est que les.
Et puis, il y a un problème de diamètre, il y a un problème de masse aussi. On ne sait pas satelliser des engins de 500 tonnes, pas encore, enfin, pas d'un seul tenant.
Voilà. Quand on voit les problèmes qu'ils ont pour construire la station internationale, ils sont obligés de l'envoyer en morceaux. Il n'y a que Mir qui est tombé en morceaux, lui. Mais...
Alors, ce qu'on pourrait dire pour conclure à propos de ces affaires d'observation pour s'affranchir des problèmes de turbulence liés à l'atmosphère, vous pouvez très bien voir vous-même les résultats. Il suffit de vous connecter sur les sites internet de l'ESO, d'une part. Donc, l'ESO, c'est l'Observatoire Européen Austral, ESO en anglais. Donc, ça doit être www.eso.org. Org. Ouais. Donc là, vous verrez les dernières images qui ont été captées par le VLT. Et puis, aller du côté du HST. On y arrive par plein de chemins. Ouais. Soit en passant par la NASA, le site de la NASA. Donc www.nasa.org.
J'ai un meilleur conseil, vous tapez le mot-clé HST.
Vous tapez HST dans un moteur de recherche et vous allez arriver. Il y a plusieurs sites évidemment qui sont dédiés au HST. Il y en a un notamment qui est superbe, qui est une collection des plus belles, pas forcément les plus intéressantes, mais les plus belles images collectées par le télescope spatial. Ça s'appelle Hubble Heritage. En français, alors je vous ferai grâce de mon accent anglais.
Voilà.
Hubble Heritage, et là vous verrez une collection, le florilège des images du HST.
Florilège, c'est bien, c'est bien.
Ah
c'est
oui,
bien.
C'est bien, c'est mieux que de dire best of.
Ouais, bah oui,
dans la langue de Molière, franchement.
Tout à fait. Donc, merci Dominique. Donc, on a eu un petit balayage de l'explication de pourquoi en fait on fait des gros télescopes.
Hein. Un brouze.
Un quoi?
Un balayage, un brouze.
Ah bon, oui, un balayage quoi.
Et voilà.
Merci à tout de suite. Nous allons aborder le moment que tout le monde attend. Au moins le chroniqueur.
En pire fond d'impatience.
Les actus astro.
J'ai même pas le droit à ma musique.
Non, la musique, faut attendre. Elle est pas prête d'être lancée. Tu vas la faire toi-même. Hein voilà. Toi, t'as ta musique. Faut attendre.
Il faut un peu.
Tout vient à point qui sait attendre.
Alors, mon cher Fabrice, que se passe-t-il dans ce grand monde du cosmos?
Voilà.
Que se passe-t-il? Il y a des couleurs, mais pas à ce point-là, quand même.
Oh là là, il nous faut des mots, en plus.
Donc, pour changer, il y a eu beaucoup de choses ce mois-ci, donc je vais commencer par la station spatiale, où l'équipage vit depuis 2 semaines une situation un peu bizarre.
C'est mire couleur pastel.
Non, mais depuis 2 semaines sur la station spatiale, il n'y a plus de générateur d'oxygène, ils sont en panne.
C'est pas pratique.
Ils sont vivants.
Ils sont vivants parce que
ils sont en panne, mais
apparemment ça inquiète personne puisqu'il y a 3 mois de réserve d'oxygène à bord, donc ils ont 3 mois pour réparer. Sinon 3 mois c'est pas réparé, ils redescendront.
Allez, on ne rit pas.
Voilà, donc il y a 3 mois pour réparer, mais c'est en panne. Enfin bon, d'ici là, l'équipage aura été relevé par un nouveau qui va s'envoler avec Endeavour, normalement mercredi, mais s'il décolle, parce que ça fait 2 semaines qu'il décale le lancement. la dernière en date.
Ils savent qu'il n'y a plus d'oxygène.
Voilà.
Les mecs, ils y prennent la respiration et essaient de s'entraîner dans les piscines.
La dernière en date, qu'il y a un joint qui est abîmé, enfin bon.
Qui s'en fume
bien. Toujours été que ça
part. Le dernier entraînement des cosmonautes, c'est de faire de l'apnée.
Voilà. Ils font ça dans les piscines.
À la NASA, ils ont des joints qui fument. C'est l'inverse.
Parce que ton béton, quand même, c'est qu'il y a un Français dans l'équipage de la navette qui ne va pas rester dans la station, mais qui va quand même partir pour son premier vol. Ah. Là, c'est Philippe Perrin. Alors, comme il dit, ça fait plusieurs années qu'il attend ce vol, alors maintenant quelques jours de plus ou de moins.
Bon. C'était la doublure de qui alors ?
Alors là,
parce qu'à chaque fois, les Français, non ? Tu sais pas ?
Non. Bon. Enfin, après ces petites nouvelles marrantes, on va dire, voilà. La station spatiale.
Donc, il n'y a plus d'oxygène.
Il n'y a plus d'oxygène. Enfin, le générateur est en panne, mais bon, ça va se réparer il y a 3 mois pour ça. Il y a un devis qui a été pris et tout.
Il y a un réparateur qui vient.
Voilà, en gros, c'est ça. Je vais prendre quelques nouvelles de Mars. Ah. Où il y a un vrai faux scoop par la NASA.
Il
y a de l'eau sur Mars.
Ah, ça c'est vraiment un vrai faux scoop. Pour ceux qui écoutent plus ça, ils le savent depuis vachement.
J'allais le dire, mon cher Frédéric.
On le sait depuis vraiment longtemps, nous. Hein.
Enfin bon, faut pas imaginer que Mars devienne comme la Terre du jour au lendemain. Mais toujours est-il que Mars Odyssée, qui est en orbite autour de la planète, a confirmé ce qu'on soupçonnait depuis un petit moment. Il y a de l'eau sur Mars,
dans le sol, quoi.
De la planète. Je ne sais pas quelle profondeur.
On le sait depuis longtemps.
Il y en a beaucoup même. Alors, ce n'est pas une grande surprise, mais au moins c'est une bonne nouvelle parce que quand il y aura des êtres humains qui iront sur Mars, au moins ils auront à boire. À défaut d'avoir de l'air, ils auront à boire.
C'est la condition qu'ils boivent de l'eau.
Voilà.
Quand même. Dans les années 70, même avant, Audouin Dollfuss avait détecté la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars. Et quand il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a de fortes chances qu'il y ait un petit peu de flotte.
Il n'y a pas les crédits là à voter non, pour la...
Non, il n'y a plus de crédits, mais les crédits vont reparaître tout à l'heure, c'était rigolo.
Parce que souvent, quand il y a une grosse info comme ça, c'est que, enfin, surtout sur Mars, c'est qu'il y a des crédits américains.
Toujours est-il que bon, il y a de la glace, beaucoup de glace apparemment.
Mais c'est Bush qui vient de découvrir Mars, remarque.
Voilà, bon.
Maintenant,
la prochaine mission intéressante justement pour ça, c'est la mission européenne Mars Express.
Ah, voilà.
Puisqu'elle va décoller dans un an, en juin 2003, emmener là-bas l'atterrisseur Beagle 2. Et Beagle 2, il sera justement fait pour ça, pour aller faire des trous de plusieurs centaines de mètres dans le sol martien, aller voir ce qu'il y a comme glace un peu partout et se promener.
Non, il ne va pas faire des trous de 100 mètres, il va faire des sondages. Il va taper dans le sol et puis il va écouter ce qu'ils répondent.
Allô, il y a de l'eau.
Et si ça fait floc, c'est qu'il y a de l'eau.
Il va pas faire des carottages.
Voilà.
Il va faire de la sismographie.
Voilà, sismographie.
Voilà, et on verra si on peut mettre Mars dans le whisky.
Voilà.
Un morceau de.
Voilà. On passe de Mars Express à Vision Cosmique 2020. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ?
Vision Cosmique 2020.
Vision Cosmique 2020, c'est le nouveau programme scientifique de l'Agence Spatiale Européenne.
Ah oui, c'est
qui vient d'être adopté les 22 et 23 mai dernier. Il y avait une réunion, là. Alors, Vision Cosmique 2020, c'est quand même un ensemble de 15 missions qui ont été approuvées. Donc, approuvées déjà en novembre dernier par l'exécutif, c'est-à-dire le Conseil des ministres des pays membres de l'ESA. Mm-hmm. Et là, qui vient être confirmé par le comité du programme scientifique. Et donc, il y a plusieurs missions qui vont s'échelonner à partir, ça a déjà commencé, puisque la première c'était XMM.
Ça veut dire Horizon, ça s'arrête en 2020.
C'est-à-dire en 2020.
On a quasiment toutes les missions prévues jusqu'en 2020.
Ça s'arrête. C'est Horizon Cosmique ?
Non, Vision Cosmique.
Ah oui, d'accord, j'ai bien compris. J'hésitais entre Bison et Vision Cosmique, mais vu le, comme c'est un programme cher, je me dis Bison, c'est tout à fait.
Voilà. Bon. Non, ça fait 15 missions. Alors, c'est vraiment traité de tous les domaines. Bon, il y a déjà XMM Newton qui est parti, qui observe dans le...
Ils ont voté comme, ils étaient d'accord.
Mais non, mais le programme, c'est un complément. Il complète...
Ouais, d'accord. Mais non, il faut le budgétiser pour
l'examen. Donc, XMM Newton, ça avait été fait en 99. Il y a la mission Intégrale qui va être normalement faite cette année.
Intégrale, ça s'appelle
ça. Voilà, pour étudier les rayons gamma. Herschel, qui va étudier l'infrarouge et les hyperfréquences. Planck, sur le fond cosmologique.
Mais ils ne s'embêtent pas pour les noms.
Eddington, pour les planètes extrasolaires.
Voilà.
Et Gaïa, en 2012, pour la cartographie galactique.
Ça, c'est la suite
de la partie astrophysique.
Donc, il marche. Gaïa est voté.
Oui, ça va.
Content. C'est quel conférencier qu'on a fait venir qui était pour Gaïa ?
Ah, tu me poses une colle, hein,
qui est venu la semaine de l'astronomie.
Pour point, but en blanc.
Elle est venue parler d'Hipparcos et en fait, il disait que le programme suivant, c'était Gaïa. Et que c'était en pleine discussion à l'ESA. Il ne savait pas si ça allait passer.
Eh bien, ça va passer.
Donc, c'est bien.
C'est peut-être Roger Maurice Bonnet.
Non, c'est une dame.
Voilà.
C'était une dame.
Pour le système solaire, ils ont envoyé Rosetta pour aller observer les comètes.
D'accord, allez.
Mars Express.
Ça, c'est pas une dame, hein, Rosetta.
Non, Mars Express et Beagle 2, donc l'année prochaine. Smart 1, qui va être.
Ils renvoient les panneaux. Ils peuvent. T'as vu la capacité 5 tonnes, la capacité de.
Oui, ben ils peuvent.
Ils peuvent en mettre 5 litres sur l'eau.
Ils peuvent.
C'est bon.
Le Smart 1, ça va être pour tester la propulsion hélio-électrique, donc électricité solaire pour aller sur la Lune. Bepi Colombo pour aller sur Mercure et Solar Orbiter pour le Soleil.
Ah, donc on envoie quand même une sonde vers Mercure.
Oui.
C'est bien parce que ça n'a pas été dévié.
Il va normalement y avoir Vénus Express, mais là ils sont tous d'accord aussi bien au comité scientifique qu'à l'exécutif qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à l'envoyer, donc on va attendre un petit peu. Ce sera peut-être rajouté, il y aura
un complémentaire.
La dernière fois qu'on s'est posé sur Vénus, c'était dans les années
60-70. Je sais
plus quand. Et bon, après, pour la physique fondamentale, c'est pas fini. Ils vont envoyer STEP, qui est une mission qui va vérifier le principe d'équivalence. Alors, le principe d'équivalence,
ouh là là.
Je ne rentre pas dans les détails.
Oui, on va voir
Smart 2, ils vont envoyer une deuxième Smart. Là, c'est pour préparer LISA. Et LISA, c'est une mission qui va aller rechercher les zones gravitationnelles en 2011. Et puis, le final, ce sera la participation européenne au NGST, donc le successeur de Hubble, qui doit être lancé en 2010. Enfin voilà, ça fait un sacré programme pour les années à venir. Et tout ben, ça a été voté.
C'est bien parce que c'est vrai que c'est assez éclectique. Comme
voilà, ce qui est assez amusant, c'est peut-être pas du hasard, c'est que l'annonce intervient à peu près 50 ans jour pour jour après le début de l'espace européen. Puisque la fusée Véronique a décollé le 20 mai 1952. Pour ceux qui étaient de ce monde à cette époque, c'est pas mon cas.
En 52, tu n'étais pas né ?
Non.
Et moi, j'étais né.
Et bon, ben, je sais
bien. Depuis longtemps ?
Depuis très longtemps, depuis au moins 5 ans.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas toute seule en Europe.
Voilà.
Ariane Espace annonce la signature de 3 nouveaux contrats, dont 2 d'Ariane 5.
Ah, c'est bien.
Le satellite Artemis, dont vous avez parlé, il continue son petit bonhomme de chemin. Alors Artemis, c'est le satellite qui avait loupé sa mise en orbite par Ariane 5. Mais bon, comme il est équipé d'un moteur à propulsion ionique, on l'a allumé, puisqu'il n'y a pas besoin de carburant.
Voilà.
Et il va tranquillement, et bon, il va mettre du temps, mais il va rejoindre son orbite avec sa propulsion ionique. Et le summum du mois, Spot 5, qui est en orbite et qui est opérationnel. Donc pour ceux qui ont Internet, allez voir les premières photos de Spot 5 sur le site de
Spot
Image. Ça a la gueule.
En langage technique, hein.
Voilà.
Ça a la gueule, c'est un niveau assez important.
Non, c'est
belles images. Ouais.
On peut faire du tourisme dans les villes depuis l'espace.
Ouais, vous pouvez surveiller votre voisine dans son jardin aussi.
Voilà, on peut faire tout ça. Et bon, avant de passer aux infos astronomiques, juste quelques petites nouvelles de l'agence spatiale chinoise.
Oui,
puisque les Chinois, puisque Shenzhou marche très bien, bah non seulement ils voulaient envoyer Shenzhou 4, qui était une mission habitée, en 2005, mais maintenant en 2003. Et puis, pendant qu'on y est, on va envoyer un Chinois sur la Lune, et puis on va s'installer sur la Lune. Voilà les dernières annonces en date. Donc, est-ce qu'il y aura un Chinois bientôt sur la Lune ? Ce sera à voir.
C'est dingue, parce qu'il y a quelques années, c'était inexistant, les Shintok, hein, les Chinois, au niveau spatial. Et c'est vrai qu'ils ont rattrapé un retard, mais impressionnant.
Bon, comme
promis. Il faut savoir que l'Europe n'a toujours pas envoyé un homme par ses propres moyens dans l'espace.
Non, par contre, on a un programme qui est en cours là, d'engins spatiaux récupérables, type navette, mais bon, il y en avait déjà un, on l'a abandonné. Alors, ça,
c'est de toute façon, ils ont de l'eau sur Mars et on pourra mettre du riz.
Voilà. Mais c'est sur la Lune qu'ils vont, pas sur Mars.
Ah oui, y en a aussi.
C'est au pôle.
Voilà. Bon, comme promis, je passe à l'actualité astronomique et je commence par une querelle de famille mythologique.
Ah, mythologique.
Mythologique.
Bien, ça commence à dater.
Eh oui, parce que Jupiter.
Je crois que c'est les infos qui venaient de sortir, Fabrice Dubreuil, les infos astro, pas les trucs.
Mais Jupiter.
Oui.
Il avait déjà piqué la place de planète la plus grande à son père mythologique, Saturne.
Voilà.
Et elle vient de faire mieux. Jusque-là, Saturne était le plus grand père de famille nombreuse, avec plus grande famille, 30 satellites. Et Jupiter, 28. Ben maintenant, Jupiter est à 39, Saturne à 30. Donc il écrase tout le monde et définitivement il s'impose. Donc il y a des règlements de côte dans l'air, je sais pas. Voilà.
Les dieux s'échauffent.
Les dieux s'échauffent. Du côté de Jupiter, justement, on va prendre un Jupiter beaucoup plus gros, une naine brune. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il y a d'un qui se promène. On prend une naine brune, puisque sur une naine brune, on a découvert qu'il y avait des tempêtes atmosphériques sur les étoiles. Et en plus, il ouvre la porte. Si tu te déranges, tu peux partir.
On est en direct. Heureusement que c'est l'avenir de la saison, parce qu'autrement ça commencerait mal pour une nouvelle saison. Hein.
Ouais. Donc je continue avec Mélène Brune.
Et
donc,
tu pourras rappeler à Daniel qu'il y a Billy qui va parler à la suite, enfin, qu'il revienne au micro tout à l'heure. Ça serait mieux. On va combler autrement.
Non mais je continue avec Mélène Brune.
Oui, bah oui.
Je raccroche Mélène Brune.
Vas-y.
Donc c'est Mélène Brune, on a découvert qu'il y avait des tempêtes atmosphériques. Des tempêtes où, si on prend la tâche de Jupiter, qui est déjà une tempête énorme, ça paraît pour une simple bourrasque par rapport à ce qui s'y passe.
D'accord.
Et comment est-ce qu'on l'a découvert ? C'est qu'une naine brune, c'est une étoile en fin de vie, ou qui est ratée surtout. Mais où il y a de grandes températures, plus on s'enfonce, et donc ça émet de l'infrarouge. Et ce qui se passe sur la quand on observe l'étoile, c'est qu'on se rend compte de temps en temps qu'il y a des pics de chaleur. Et pics de chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est un nuage, et puis il y a un mouvement, c'est comme un cyclone, et on voit en profondeur, et quand on voit en profondeur, on voit la chaleur.
Enfin, d'accord.
Voilà comment on a découvert ça. Et je terminerai par, justement, pour revenir aux effets d'annonce de la NASA. Ah. Vous vous rappelez peut-être, en 96, on nous avait dit qu'il y avait des crédits à voter pour Mars Pathfinder. On avait dit, oui, il y a une météorite qui est tombée, il y a de la vie sur Mars.
Oui, oui, ça c'est oui.
Bon, il y a de l'eau, il y a tout, bon. Ben, finalement, petit à petit, on a enlevé tous les éléments, et le dernier vient de tomber, là, puisqu'il jouait sur le carbonate, qui était soi-disant aligné d'une manière spéciale, et que ça pouvait être que parce que c'était des carbonates qui étaient dans des cellules vivantes.
Daniel revient.
Daniel revient.
Bon. Vas-y, vas-y, fais du bruit.
Hein. Daniel, le retour.
Ah, c'est malin.
Enfin, tu viens en t'entendant.
Donc, il y avait des carbonates, on disait, ils ne peuvent être comme ça que parce qu'ils étaient dans des cellules vivantes. Finalement, ils sont comme ça parce qu'ils étaient comme ça à l'origine, c'est prouvé. Et donc, il n'y avait jamais eu de carbonate, ni de vie, quoi que ce soit, dans cette météorite. Toujours est-il que ça permet de voter les crédits pour le petit rover sur Mars, et c'était très amusant.
Non, c'est vrai que c'est, faut quand même le spécifier, ça fait, en 96, on fait un gros tapage médiatique, il y a de l'eau. En fait, il y a une météorite qu'ils avaient... qui normalement doit provenir de Mars, qui a été retrouvé sur Terre, parce qu'en fait, avec les multiples explosions, il y a des bouts de Mars qui sont arrivés sur Terre, et c'est vrai qu'ils ont vu qu'il y avait de la vie dedans, donc c'était phénoménal.
Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y a de la vie dedans. Après,
voilà. Ils ont trouvé de la vie, mais le problème, c'est qu'elle était arrivée après.
Non, ils ont vu, en fait, ils ont vu un relief qui ressemblait à une bactérie avec son flagelle, etc. Mais c'était assez... Ça pouvait être ça, tout comme ça ne l'était pas. En fait.
Voilà. Mais c'est vrai que...
Et ça a été annoncé à grand coup de trompette, comme d'habitude.
Bah, par contre, là, pour une fois, c'est vrai, ils annonçaient quand même qu'il y avait de l'eau sur Mars. Ouais, c'est un non-événement, mais c'est quand même une annonce. Quoi.
Demain, ils vont nous annoncer que le ciel est bleu, t'inquiète pas.
Bah, ah, ça a déjà été fait pour Vénus à une époque, ça. Oui. Souviens-toi d'un superbe image de Vénus toute bleue. On avait l'impression que c'était vraiment la sœur jumelle de la Terre. Ouais. Et ça avait été fait dans le même objectif, en fait. Hein.
En fait, c'est des nuages d'acide sulfurique qui ont été colorés en teinte artificielle. Pas qu'ils sont très forts pour ça. Mon cher Fabrice, continue donc.
Mais je ne vais pas continuer longtemps comme ça.
Mais si.
Non, mais je voulais justement conclure comme ça, conclure cet effet d'annonce. Mais comme tu as voulu poursuivre, je te laisse poursuivre. Et je te laisse la parole.
Merci Fabrice. Avec donc Daniel, on voit le temps qui se prépare, on lui laisse le temps de la pause musicale. Non, pas de la pause, non, de la virgule musicale.
Ouais, tu fais n'importe quoi.
Non, c'est pour voir si Claudie dans la régie la suit.
C'est vraiment la fantaisie.
À toi Daniel, c'est toi qui vas nous présenter le programme des prochaines conférences du cycle 2002-2003, surtout des conférences dont les dates sont arrêtées, et puis les pistes pour la qu'on a encore.
Je vais surtout essayer de vous allécher par rapport à ce nouveau cycle, puisque on a essayé, dans la tradition des conférences de la Société d'Astronomie, de faire venir à la fois des gens qui soient intéressants scientifiquement, qui soient dans le cœur de l'aventure, et qui ne soient pas simplement des savants, des érudits. Ben, arrêtez de faire des grimaces, parce que moi, je ne peux pas me concentrer. Et en fait, dans cette série-là, on a aussi des gens qui... Donc, dont des célébrités. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, puisque...
Commence par la première.
Voilà, on inaugure ce cycle, et c'est le moment de l'annoncer, puisque la première conférence a lieu le 11 octobre, puisque depuis 2 ans, nous nous efforçons d'avoir une conférence dès le mois d'octobre, puisque c'est les 3 premiers mois, c'est là où les étudiants sont encore avides de connaissances, sont pas trop submergés de leurs partiels et autres fantaisies. Et donc le 11 octobre, qui recevons-nous? Eh bien, une grande figure du monde des sciences, une célébrité, puisqu'il a découvert la première planète extrasolaire. Il s'agit de Michel Mayor, qui est actuellement donc, directeur de l'Observatoire de Genève, qui a découvert avec son acolyte Kellos... qui a découvert la planète 51 Pégase, et honneur à la France, à l'Observatoire de Haute-Provence, évidemment. Donc ça, c'était une découverte absolument fantastique en 1995, je vous le rappelle. Actuellement, vous savez à combien on est de planètes extrasolaires?
De systèmes planétaires.
En fait, de systèmes planétaires extrasolaires.
Il faut faire attention, s'il y en a plusieurs, on va juste dire une trentaine, moins.
Oui, ben je vous êtes non
82
000. Fabrice, on voit que tu es trésorier, que tu es dans les finances. Je sais que tout augmente, mais bon, c'était 47 il y a pas si longtemps, mais je serais incapable de vous le dire parce que ça va très vite.
T'es sûr que c'était 95 la première planète extrasolaire?
Non, il y a eu 51 Pégase.
Il y a eu, pardon, Beta Pictoris peu avant. Mais c'est vrai que moi-même, j'étais surpris quand Michel Mayor m'a envoyé son curriculum et ses indications. Et c'est vrai, il s'annonce en fait comme étant le découvreur de la première planète extrasolaire. Oui, c'est la première planète, étant donné qu'avant cela, on avait découvert que des systèmes, on avait détecté des systèmes protoplanétaires, notamment Beta Pictoris. Hein, on a eu Roger Ferlet à ce sujet-là qui nous en a parlé. Mais bon, Beta Pictoris, c'est une aventure. Bon, ça a été d'abord des images en infrarouge qui ont été retraitées. On a détecté des poussières. Avec l'effet Doppler, on a vu qu'il y avait des trucs qui tournaient autour d'une étoile. On a vu des jets et on a soupçonné qu'il y avait là un système planétaire. Mais on n'a pas détecté.
Juste, ouais. Il me semblait que c'était avant 95.
Mais c'était, bah oui, tu as raison. Mais donc
non, Beta. Mais la première, que 51 Pégase, c'était avant 95.
Ah non, 51 Pégase, c'est 95. 95. Ah oui. Ça, je suis formel. Et bon, bah, je saurais plus par cœur tout ce qui a été découvert depuis. Bon, il y a des systèmes qui en a plein. Parmi les premiers, bon, on commençait à les retenir, mais maintenant, on les a oubliés.
Alors, ce qui est assez phénoménal dans ces systèmes, c'est qu'en fait, bah, bien sûr, on avait avant qu'un seul système solaire, c'était le nôtre. Donc il y a pas mal de théories qui ont été créées pour la création justement de notre système solaire. On a pris,
mais on avait
on a extrapolé pas mal de choses. On a dit bah voilà pour que ça colle au système solaire. Et puis on a découvert des nouveaux systèmes. Et ce qui était génial, c'est que dès les premiers systèmes, il n'y a pas une seule de nos théories qui collait par rapport. C'est-à-dire qu'avec nos théories, on pouvait pas créer les systèmes qu'on avait découverts.
Si vous voulez, pour schématiser, on a surtout découvert de grosses planètes. Ouais. Bon, ça c'est pour des raisons techniques évidentes. On voit d'abord les systèmes qui ont de grosses planètes. Mais paradoxalement, ces grosses planètes étaient vraiment très proches de l'étoile mère. Et ça, c'était surprenant, puisqu'on a une espèce de 51 Pégase, c'est un Jupiter qui serait la place de Mars, en gros. Ouais, ou de Mercure, même, je crois.
Ouais, ça, c'est dingue.
Donc, c'est un peu incompréhensible dans les schémas actuels. Donc, c'est vrai que j'allais venir, justement, que toutes ces découvertes nous amènent à reconsidérer, si ce n'est réexaminer totalement, les théories sur la formation des systèmes planétaires.
On va pouvoir faire un peu plus de science, au sens noble du terme, avec le système solaire, puisque dans la science, il faut pouvoir comparer, il faut pouvoir faire des essais. Donc, vous savez tous qu'en astronomie, on ne va pas chauffer, on ne va pas refroidir, puisqu'en fait, on n'a pas la main sur les planètes, surtout sur Terre.
On ne peut pas expérimenter.
Donc voilà,
il faut accumuler les observations.
Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un document et les observations, faire des découvertes.
Alors, donc, effectivement, on a découvert à peu près... tu n'étais pas loin, Fabrice, pardon. C'est toi qui avais raison. On a découvert à peu près une centaine de systèmes extrasolaires. Je suis tout à fait rouge de confusion. Ouais, parce que moi aussi, j'avais du retard.
C'est ce qu'il dit, mais il n'est pas du tout rouge de confusion. Hein.
Ben si, je regarde sa chemise. Et en fait, donc, c'est ce que dit donc Michel Mayor, c'est qu'on se pose plein de questions et on reconsidère beaucoup de choses. Et on veut aussi... Alors, ce qui est contesté par certains scientifiques et qui enthousiasment les autres, c'est que toutes ces recherches ont quand même un but inavoué ou avoué. Ouais. C'est qu'on aimerait bien détecter la vie, quelque part, une espèce de Terre. Hein. C'est quand même un petit peu la quête de l'humanité vers la première fois qu'on verrait une vie extraterrestre. Ça serait une grande première.
Déjà qu'on a du mal à trouver de la vie.
Ouais, alors,
la vie en étant sur une météorite
sur Mars. On passe son temps à détruire celle qui est sur Terre, mais on la cherche ailleurs, Marc. C'est dans l'ordre des choses. Et en fait, on va chercher des signatures de vie extraterrestre qui sont, par exemple, l'émission de méthane ou l'oxygène, etc.
C'est vrai qu'il y a des études très intéressantes, c'est comment détecter la vie simplement, parce que bon, vous avez les techniques du téléphone, vous prenez un récepteur, puis vous voyez si quelqu'un appelle, mais bon, s'il n'a pas le téléphone, ça marche pas. Donc, en fait, il faut trouver des techniques pour observer s'il y a de la vie, et puis trouver surtout quelque chose de caractéristique où vous pourriez affirmer qu'il y a bien de la vie. Et c'est vrai, comme tu dis, il faut trouver soit du méthane, parce qu'on est sûr que pour avoir un maximum...
Ouais, un gaz hautement réduit dans une atmosphère oxydante, par exemple, si elle est déjà là. Parce que pour ça, je suppose qu'il y a déjà eu des êtres photosynthétiques, ce qui n'est pas le cas dans les premières phases de l'apparition de la vie. Ce qui se passe, par exemple, sur Europe, c'est une vie à base de chimiosynthèse dans les profondeurs océaniques, sous la méga calotte polaire qui
assure... La méga calotte tout court, d'ailleurs, parce qu'elle est sur toute la planète.
Elle n'est pas polaire, oui, elle est toute... Alors, quelques mots sur Michel Mayor, donc astrophysicien, professeur à l'Université de Genève, directeur de l'Observatoire de Genève. C'est un Suisse, remarquons-le, puisque c'est la deuxième année que nous ouvrons à la Grande Europe. Hein, la Suisse, dernier pays qui a conservé le franc quand même. Hein. Il a étudié à Lausanne et il a fait sa thèse sur la structure spirale de la Voie lactée. Et puis, il a été aussi associé à la construction d'instruments. Ça ferait plaisir à Dominique, puisque c'est un instrumentiste, excusez-moi, et pour la mesure de vitesse stellaire. Et alors, il a utilisé un magma globulaire, les propriétés des étoiles multiples, donc toutes les étoiles, toutes les associations d'étoiles. Et puis, ben, c'est récemment qu'il s'est intéressé aux planètes extrasolaires avec le succès que vous connaissez. Et il a découvert d'autres systèmes par la suite. Donc, c'est vraiment un grand monsieur. Donc, Michel Mayor, le vendredi 11 octobre, au Bretagne.
Et ce qui permet, en fait, t'as aussi de parler un peu des petits observatoires. C'est vrai que Dominique a parlé des grands yeux, les longs yeux, les gros observatoires de plusieurs mètres. Mais c'est vrai que on expérimente aussi beaucoup de choses sur des observatoires plus modestes, comme l'observatoire de Haute-Provence. Et c'est vrai qu'aussi, ben, bien sûr, il n'y a pas les mêmes, les gens ont un temps de télescope plus important, ce qui sont peut-être un peu moins demandés, donc on peut observer pendant plus longtemps et faire des essais. Et c'est vrai que ça, grâce à des observatoires comme l'observatoire de Haute-Provence, c'est vrai qu'on a beau dire, mais Hubble, il n'a pas découvert de nouvelles planètes.
Voilà, mais c'est surtout parce que là, on met en œuvre véritablement des techniques de pointe.
Tout à fait.
Bon, détection infrarouge, bon, il y a beaucoup de techniques qui évoluent, elles, très vite, et qu'on peut associer à des télescopes relativement modestes. Souvenez-vous, la découverte de la structure spirale de la Voie lactée par l'équipe d'Yvon Georgelin, l'Observatoire de Marseille, c'était un télescope d'amateur, on pourrait dire, ouais. 350, ouais. 360
mm. C'est en dessous d'un 440.
240 peut-être même, je crois que c'est un 240. Donc c'est 24 cm, c'est un télescope plus que modeste.
Bon, d'accord, il l'avait observé, c'était à Hawaï.
Oui, mais enfin, c'est pas...
Sur un site qui était bien, mais c'est vrai que c'est des... Il n'y a pas besoin non plus d'avoir...
Ce qui a fait le travail, c'est l'interféromètre de Fabry, là, j'ai oublié l'autre nom, qui a permis de voir les vitesses de récession des bras de la galaxie.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le télescope, il y a tous les instruments qui sont derrière pour pouvoir augmenter soit la résolution, alors d'avoir des systèmes assez spécifiques.
Alors, je passe à la... Donc, vous retenez bien, le 11 octobre, venez, parce que là, la salle sera probablement un comble, parce que Michel Mayor, c'est quand même une sommité, une célébrité, on va dire. Après, le 15 novembre, vendredi 15 novembre, nous recevons Isabelle Grenier, qui travaille au CEA, mais qui enseigne à Saclay, qui enseigne aussi à l'Université de Paris 7.
Le CEA, c'est
Commissariat à l'énergie atomique. Et Isabelle Grenier, alors là, je m'en vais énormément, parce que si vous m'avez entendu tripoter mes papiers tout à l'heure, c'est parce que je cherchais désespérément mes notes sur Isabelle Grenier, que j'ai encore tapées cet après-midi. Eh bien, voilà, je vais... De mémoire, je sais que c'est une grande dame, qu'elle a beaucoup...
elle a fait des choses
très intéressantes. Et elle a surtout, donc elle enseigne là où j'ai dit, dans les universités, à Saclay. Et alors, c'est une spécialiste d'astrophysique. C'est une astrophysicienne. Elle a dirigé le département de DAEC de Meudon, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Là aussi, c'est une, comme on dit vulgairement, une grosse pointure.
Voilà.
Donc c'est vendredi. Alors, elle m'a pas donné encore le sujet de sa conférence, mais elle viendra donc le 15 novembre, au Bretagne, toujours. Nous passons au vendredi 13 décembre. Là encore, honneur aux dames. Alors, qui va encore dire que les dames sont toujours brimées, patati et patata? C'est encore une dame, Nathalie de Ruel, qui nous parlera de la physique de l'univers primordial. Alors, elle aussi a un curriculum vitae impressionnant, ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de physique, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École polytechnique. Donc, c'est pas rien.
C'est vrai que quand on voit les gens qu'on fait venir...
C'est impressionnant.
Et le nombre de virgules avec tout ce qu'ils ont.
Mais oui, je suis très embêté. Ouais. C'est un exercice de français. Alors, les professeurs de français feraient mieux de rédiger les condensés des plaquettes de la Société d'Astronomie. Ça leur apprendrait à faire des condensés.
Même aux élèves.
Avec une page de biographie à réduire en 10 lignes.
Voilà.
Là, on fait un exercice. Hein. Donc, elle est elle dirige depuis 2002, là, depuis le début de l'année, elle dirige le laboratoire qui s'appelle Gravitation Relativiste et de Cosmologie, le GRECO, à l'IAP, l'Institut d'Astrophysique de Paris.
Ça n'a rien à voir avec Isabelle.
Alors, elle a travaillé à Princeton, aux États-Unis. Elle a été ce qu'on appelle post-doc, c'est-à-dire après sa thèse, elle est allée à l'Institute of Astronomy de Cambridge. Et ensuite, elle a été à travailler à l'Institut Henri Poincaré, honneur à l'un des premiers présidents de la Société Astronomique de France, n'est-ce pas, notre cher ami Poincaré, et non pas Cicéron, mon cher Dominique.
Et elle a... Rien comprendre les gens, parce que...
Cicéron, c'est Poincaré.
Oui.
Bon. Et elle a été au département d'astronomie relativiste et de cosmologie, donc le DARC de Meudon, qu'elle a dirigé, elle aussi. Et enfin, alors là, ça devient intéressant, elle a été pendant de nombreuses années...
Parce que tout reste, c'était pas la peine d'écouter.
Voilà, tout à fait. Senior Visitor au Department of Applied Mathematics, au département de mathématiques appliquées et de physique théorique de Cambridge. Et qui se trouve dans ce département de mathématiques appliquées de Cambridge? un certain Stephen W. Hawking.
Ben oui.
D'accord. Qui a travaillé donc avec Monsieur Hawking. Et bref, elle est aussi visiteur CNRS à l'Institut des Hautes Études. Donc voilà une dame qui va nous parler de l'univers primordial, donc les premières millisecondes après le fameux Big Bang, dont on se pose encore plein de questions. Et donc là, c'est de la physique des très hautes énergies. Et il y a une espèce de recherche entre de mariage entre la cosmologie et la physique pour essayer de comprendre ce phénomène qui reste encore hypothétique. Elle dit bien, de nombreuses questions demeurent au sujet du Big Bang. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, elle est bien armée pour en parler. Donc, Nathalie Deruel.
Le vendredi 13 décembre.
Alors, nous passons à la semaine de l'astronomie. Pour en ça, 2003.
Alors, combien l'édition, Daniel?
Le 13e. Bien. Alors, faut pas être superstitieux. Enfin, il n'y a pas de vendredi 13 à la 13e semaine de l'astronomie. Mais elle se déroulera du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2003, au Muséum d'Histoire Naturelle, cette fois-ci, comme d'habitude.
Cette fois-ci, comme d'habitude.
oui, pardon. Comme d'habitude, donc.
Voilà.
Et donc, on inaugure le lundi, comme l'année dernière, et nous faisons venir, comme l'année dernière, quelqu'un du Grand Sud, puisqu'il s'agit de Daniel Bonneau, qui est astrophysicien, qui est directeur adjoint de l'Observatoire de la Côte d'Azur, ce qu'on appelle l'Observatoire de Nice, pour la station de Calerne, c'est-à-dire cette station où il a travaillé, où il travaille toujours avec Antoine Labéry, qui est le père de l'interférométrie française. Vous savez que...
L'interférométrie du cours, hein, tu peux même dire.
L'interférométrie, oui, parce qu'il y a eu après des développements considérables, notamment sous l'impulsion de notre ami Michel Faucher, qui a trempé là-dedans. Alors, c'est une très belle histoire.
Il a trempé dans la terre.
Alors, sa conférence, c'est « Progrès instrumentaux et découvertes astronomiques ». Et il va montrer un peu le lien qu'il y a, l'articulation entre les instruments et ce qu'on observe avec, et comment l'observation, les résultats qu'on trouve, servent d'aiguillon à progresser dans cette voie, notamment pour l'interférométrie, parce que ça s'est développé en même temps que les résultats arrivaient. Et alors, donc, il va nous raconter cela. Et en fait, j'avais pas fini sa biographie parce qu'elle est fort riche. Et il a fait des études avec Ivry Schatzmann et bien sûr Antoine Labéry. Et à ce moment-là, il a été tout de suite impliqué dans les développements techniques modernes d'interférométrie optique à Meudon d'abord. Il a fait un doctorat avec Antoine Labéry, mais à Meudon, il s'est consacré au développement de l'interférométrie des tavelures. Donc, c'est une technique un peu spéciale, pour augmenter la résolution. Et alors, il a aussi, bien sûr, travaillé sur les grands télescopes. Alors, ce qui est intéressant, il a travaillé sur les étoiles doubles, l'atmosphère des étoiles géantes, la dimension des satellites d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Donc, et pourquoi la dimension? Ben parce qu'avec l'interférométrie, on accède, donc c'est de la très haute résolution angulaire, on accède au diamètre de ces petits corps. Et avec Antoine Labéry, donc il participe depuis 1976 à la mise au point de l'interféromètre à deux télescopes, donc puis ce qu'on appelle le I2T, et ensuite le GI2T, c'est-à-dire le grand interféromètre à deux télescopes. Et il a mesuré des diamètres d'étoiles géantes et également l'étoile des doubles Capella dans le visible proche infrarouge, qui est une association de haute résolution et avec des rayonnements pas courants. Et enfin, il a trouvé une structure en jet. Et c'est simplement Daniel Bonneau, un des grands spécialistes de la haute résolution angulaire. Et il est conseiller scientifique de la commission des étoiles doubles de la Société astronomique de France. Il est venu d'ailleurs à Nantes quand on a reçu la commission des étoiles doubles. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les conférences de la semaine de l'astronomie pour la bonne raison que j'ai encore quelques trous, comme on dit.
Pas de mémoire.
Et donc, il y a quelques projets. Peut-être,
mais la plaquette n'est pas
Jean-François Gauthier. Le programme n'est pas publié.
Non, il n'est pas terminé encore.
Je vous donne quelques pistes. Je sais que Robert Moscovitch, qui est un astrophysicien, et il serait prêt à venir dans cette semaine d'astronomie, soit sur une conférence sur la galaxie, sur des rayonnements, sur de l'astrophysique, parce qu'il est un grand astrophysicien, soit un sujet totalement délirant, parce que c'est un de ses dadas, c'est Tintin et l'astronomie.
Sur les quatre.
Alors on va peut-être faire Tintin et l'astronomie, parce que ça, c'est rigolo, hein, on verra ça. Donc, monsieur Moscovitch. Je suis désolé, je ne vais pas vous les plaire non plus.
Non,
ça nous prendrait trop de temps.
DST, des K, oui, voilà.
Ça s'écrit comme ça, s'éternue. Voilà. Et ce monsieur.
Ça se prononce comme Warling.
C'est un peu ça, mais c'est bien pire. Et bien, après, le mercredi 22, donc vous voyez, j'ai sauté du lundi 20 janvier au mercredi 22, et je vais encore sauter un jour, puisque je vais arriver au vendredi 24. À vendredi 24, c'est une conférencière exceptionnelle. C'est Suzanne Desbarba. Alors, Suzanne Desbarba, c'est une. Elle a, alors, quand j'ai découvert son curriculum, j'étais assez impressionné, puisque bien sûr, elle est d'abord astronome titulaire à l'Observatoire de Paris. Elle a été directeur d'une unité qui s'appelait, du CNRS, qui s'appelait Système de référence spatio-temporelle. Et elle a été également directeur du département d'astrophysique fondamentale de l'Observatoire de Paris. Et elle a été vice-présidente de la commission 41 de l'Union Astronomique Internationale. Je ne sais pas ce que fait la commission 41. Et surtout.
Enfin, on se renseigne quand même avant que la voilà. Femme intervenir.
Mais par contre, ce qui se passe, c'est que cette dame, parallèlement à cette carrière fort riche, elle s'est passionnée très tôt, et très tôt, elle a été ressentie comme grande spécialiste de l'histoire des sciences. Et elle est chargée, depuis sa retraite, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est en retraite maintenant, cette dame, et elle exploite les archives de l'Observatoire de Paris. Donc s'il y en a une qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui s'est passé et qui en a les références, c'est la spécialiste française en histoire de l'astronomie. C'est-à-dire si elle dit quelque chose, tout le monde dit c'est comme ça, c'est amen. Ou on s'excuse de s'être trompé.
Comme tu dis tout à l'heure.
Si on dit autrement qu'elle.
Voilà, c'est une grosse pointure. Hein.
C'est clair. Et alors elle va nous parler de Uranus, Neptune, Pluton, trois découvertes, trois stratégies différentes.
Ah ouais,
c'est ça. Et ça, c'est très intéressant parce que elle va nous raconter un peu ce qu'on connaissait sur le système solaire avant la découverte de la nouvelle planète qui était Uranus par un amateur qui s'appelait Herschel, un peu par hasard parce qu'il voulait faire un catalogue des étoiles dans le ciel. Il a fait comme notre ami Frédéric Brion, puis il a vu qu'il y avait une étoile qui avait rien à faire là.
Et comme Frédéric Brion, il a dit tiens, c'est une nouvelle planète.
C'est une planète.
J'ai pas encore découvert de nouvelle planète.
Ah ben si t'avais vécu en ce moment, c'était peut-être, ça serait peut-être toi. Et cette planète d'ailleurs, on l'a appelée Herschel avant de l'appeler Uranus. Et la reine d'Angleterre ou le roi, je ne sais plus. Suite à cette découverte, l'a nommé Sir William Herschel, puisqu'il était organiste avant, astronome amateur, etc. C'était un Allemand, il s'appelait Wilhelm.
Et il était Williamisé.
Il était Williamisé par les Anglais. Alors, après, vous connaissez l'histoire de Le Verrier, mais vous verrez qu'il y a d'autres noms qui sont associés à la découverte de Neptune. Il a quand même fallu attendre. Entre-temps, on a découvert des satellites de Saturne, Jupiter. Hein. Il y a eu d'autres découvertes. Et enfin, il faut attendre 1930, n'est-ce pas, mon cher?
Et pas 1910.
Et non pas 1910, pour la découverte de Pluton par M. Tombaugh, qui a passé tout le restant de sa vie à signer des autographes, comme quoi, si vous découvrez une planète, c'est le bon filon. N'est-ce pas, mon cher Frédéric? Alors, après, nous sautons au 14 février.
Donc, c'était la fin de la semaine de l'astronomie.
Alors, c'était la fin de la semaine de l'astronomie, et là, nous recevons Michel Cassé. Alors, Michel Cassé,
grosse pointure aussi.
C'est une grosse pointure.
C'est l'année des grosses pointures.
Non, mais non, tous les ans.
Non, c'est bien.
Et on nous fait toujours les biographies dans Ciel et Espace une fois qu'ils sont venus.
Même quand ils ne viennent pas, d'ailleurs.
Même quand ils ne viennent pas, parce qu'ils croient qu'ils sont venus. Alors. Voilà. Alors Michel Cassé, c'est quelqu'un de très connu, il a fait de nombreux ouvrages, un astrophysicien, excusez-moi, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et il veut nous parler, lui aussi, de matière et quintessence, quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire sur pas les origines cosmiques de la matière, mais c'est un petit peu voisin, c'est quelque chose sur comment la matière s'organise, etc. Je n'en sais pas plus.
C'est les premiers contacts, en fait.
Plus que les premiers. Vous savez, c'est les dernières relances. Alors, après, le 21 mars, je sais que...
Vas-y, cherche dans tes feuilles, au moins comme ça on les entend.
C'est Roland Lehoucq. Alors, Roland Lehoucq est extrêmement sympathique, puisqu'il m'a tout envoyé, mais c'est moi qui ne retrouve plus. Donc... Vous me pardonnez, monsieur Lehoucq. Enfin, il n'écoute pas, alors ça va.
Ça dépend, parce que Alternante, mais sur Internet maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein.
Ah oui, alors de toute façon.
Enfin, il peut écouter.
Oui, voilà. Alors, il m'a envoyé son résumé, etc. Il va parler d'une. Donc, il parle de l'univers, des galaxies, etc. Donc, c'est surtout une conférence un peu sur la relativité, la nouvelle vision de l'univers, etc. Ouais, je m'excuse de ne pas être plus détaillé parce que je ne vais pas vous faire participer à mes lamentables tricotages neuroniques pour essayer
de recoller les morceaux.
C'est qui est Roland Lehoucq, donc il viendrait le 21 mars, hein, lui, le jour du printemps. Il est astrophysicien au service d'astrophysique du CEA, du jour de Saclay. Comme ça, on a beaucoup de gens du CEA, c'est un hasard. Il a tenu une rubrique dans Pour la science, idées de physique, pendant longtemps. Enfin non, pas pendant longtemps, pendant 2 ans et demi, tout ça.
Mais sur un magazine, c'est pas mal, hein.
Il a écrit des articles de vulgarisation, et puis il écrit donc un livre sur le thème de la conférence, et il y en a un autre en préparation qui s'appelle « La science de Superman ».
Oui.
La physique de Superman.
La physique de Superman.
Oui, c'est... Alors, il y a des gens, sympathiques, vous avez vu, intéressants, qui sont un peu particuliers pour certains. Donc ça va être un cycle. Bon, on voulait un petit peu tracer des sillons nouveaux, des gens qu'on ne connaissait pas vraiment. L'année dernière, on avait fait revenir, c'est 2 ans qu'on a fait revenir des gens qu'on connaissait bien.
Les 30 ans de Vassane, oui.
Là, c'est un peu le. On réinaugure. Et ça devient quand même de plus en plus difficile de trouver des conférenciers. Je vais vous dire la raison. La raison, elle est très simple. C'est que maintenant, beaucoup de gens nous copient. Parce qu'avant, il y avait la SAN qui faisait des cycles de conférences, un petit peu les Parisiens quand ça les chatouillait, mais et puis quelques sociétés locales qui faisaient des choses à 18h, mais avec leurs adhérents. Mais depuis, on voit que les gens qu'on sollicite, ils font une conférence ici et là, et ma foi, ils sont de plus en plus pris. Alors ça, c'est quand même quelque chose, un autre phénomène.
Il y a aussi le fait qu'on a quand même invité plein de monde.
Déjà. Quand on va chez les libraires, on voit qu'il y a effectivement, quand on voit des livres qui portent les titres des conférences que nous avons, pour certains que nous avons trouvés.
Voilà.
Alors c'est sympathique aussi, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans.
On n'est pas trop mauvais.
On dit les deux pieds dans le même sabot. Voilà, mon cher, pour cette saison prochaine.
Je vous invite à aller consulter le site internet, il y aura toutes les mises à jour.
Consulter le site internet.
san-fr.com pour aller avoir les dernières. La plaquette en avant-première avant qu'elle sorte de. Des presses toutes chaudes de l'imprimerie qui vont.
Mais ce sera au mois de juin, voilà. Si tout va bien.
On y est.
Oui, enfin, au mois de juin.
Non, c'est pour te mettre un peu la pression, c'est pour ça.
Ouais, c'est pas la peine.
Il l'a déjà.
Voilà.
Non, c'est vrai qu'on va essayer de la faire sortir avant cet été pour. Au moins,
avant
pour être bien prête pour qu'elle puisse essayer de commencer à être diffusée dès la rentrée. Nous arrivons dans les dernières minutes de la dernière émission Pulsane de la saison. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je lance la conclusion?
On va rappeler les dates principales.
C'est ce que je pensais. Donc la prochaine conférence, donc Daniel, là, ce qui vous a parlé du prochain cycle 2002-2003. Le cycle 2001-2002 s'est terminé il y a quelques semaines ou quelques mois. Et en fait, on a une conférence exceptionnelle, hors cycle,
le lundi 24 juin.
24 juin à 21h. Qui va nous parler, donc c'est Philippe Chomaz, qui va nous parler des séquoias dans les étoiles. Qui va être exactement les origines cosmiques de la matière. Donc il va nous parler un peu de tout ce qui est physique nucléaire et puis tout ce qui est aussi toute la présence des gros...
Les expériences dans les accélérateurs reproduire la matière cosmique.
Donc notez sur vos agendas le lundi 24 juin à 21h.
Il ne faut pas oublier le S de cosmique.
Oui.
Voilà.
Voilà, c'est bien. C'était la blague de...
Oui, il y a un sketch comme ça, mais dans l'autre sens.
Bien, bon. Donc ensuite, on arrive au mois de juillet, les ciels de Nantes, qui vont commencer exceptionnellement cette fois-ci à 19h, étant donné qu'on va observer le soleil avec notamment le filtre H-alpha qui va être utilisé pour faire découvrir les protubérances solaires, puisque c'est le seul moyen pour un amateur d'avoir accès à ces protubérances en dehors des éclipses. C'est pour ça que c'est un moment assez important à... agréable à voir, donc le samedi 20 juillet à partir de 19h pour le soleil et à partir de la tombée de la nuit pour le ciel nocturne. Le grand blotro, le phénomène astronomique au niveau de la stèle solaire, notamment tout le début
passage du soleil derrière la stèle, voilà. Donc début août
et notamment le 11 août à 6h30 dimanche matin
le 11 août,
voilà, pour être avec la société de l'astronomie de Nantes pour qu'on vous explique un peu les détails du phénomène. Donc notez déjà début août, vous pouvez aller voir le soleil passer derrière la stèle avec les calculs qu'a effectué la société de l'astronomie de Nantes. Autrement, vous vous connectez sur internet san-fr.com pour avoir les dernières infos. La petite info pour les gens qui ne le savent pas, maintenant Pulsan émet aussi via Alternante sur Internet. Vous allez sur le site Alternante, alternante.fr.fm, et vous avez accès à la diffusion en direct de l'émission. Donc vous pouvez, n'ayez pas d'excuses si vous partez à l'étranger, comme dirait Monsieur Lassor, notre président d'honneur, c'est-à-dire si vous avez un endroit autre que l'organe, les rayons de diffusion des ondes Alternantes, de pouvoir l'écouter. C'était la dernière émission Pulsane de la saison. On se retrouve une prochaine fois. À plus. Au revoir.